Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, diffusé en direct mercredi 4 juillet 2007 de 18 à 21h, en différé jeudi 5, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Amis de la Résistance, bonsoir.
C'est les vacances.
Il y a une lumière sépulcrale ici dans ce studio, c'est normal ou alors c'est moi, c'est peut-être moi. Alors.
Je trouve que non, c'est un peu triste.
Ah oui, ouais. C'est sépulcrale, j'aime bien.
Soyez donc.
Alors, bravo Victoria, Vanillon. Elle s'y met petit à petit,
ah, quand même.
C'est bien. Alors, autour de ce micro, enfin de ces micros, car riche des moyens que vous savez, nous avons plusieurs micros dans cette salle. Autour de ces micros, donc, le marquis.
Bonsoir.
Jean-Paul Chirigues de Olmeta I.
Palestro.
Palestro. Mmh. C'est chic aussi.
C'est Moedano de Olmeta I. Palestro.
Moedano de Olmeta I. Palestro.
Voilà, vous pouvez mettre tout ça dans le désordre, ça arrive quand même.
La vache. Et autre lieu découvert à Maribas, bien entendu.
Je suis embêté, Serge, parce que on vient, je le révèle au marquis en même temps. Oui, Patrick Goffman. Je le révèle aux auditeurs en même temps qu'au marquis, nous avons résolu de reconnaître ses services en le mettant dans l'ours, c'est-à-dire dans le générique du journal, et alors là ça va pas tenir, hein. Moi j'ai mis le marquis de Olmeta tout court, mais là tous ces titres ça va pas tenir.
Non, ça va, ce sont pas des titres, c'est le nom.
Oh là là.
Ah oui, non, c'est marquis le titre.
Voilà. C'est son excellence, c'est le prédicat.
Le prédicat, c'est son excellence. La titulature, c'est le marquis.
Et après, c'est
c'est le bonhomme.
Ça ne me dit pas comment on va vous caser dans l'ours minuscule.
Je
ne
demande pas à être casé dans l'ours.
Bon. Oui. Alors, Goffman tout court.
C'est oui.
Un peu.
Humble.
Vous pouvez pas vous arranger pour avoir un bout de particule qui traîne.
Mais je vous apprends pas, Serge de Bekech, que le MIR, des titres, même héréditaires, à partir d'un certain grade dans la fonction publique et dans l'armée russe.
Mais je suis beaucoup la noblesse du premier cercle, du deuxième cercle.
Mais évidemment, bon, mon grand-père était colonel, mon arrière-grand-père général.
C'est dommage que ça n'ait pas continué. Vous auriez été quoi alors, dictateur en chef?
Dieu le père. Mais je vois pas la nécessité de porter un titre éteint d'un système d'une hiérarchie éteinte.
Ah, ça c'est l'environ marxiste quand même.
Ce qui est héréditaire, ce sont les maladies aussi.
François Robot de.
Robot de quoi? Avec un H très utilisé en cuisine, un instrument indispensable.
Robot de cuisine, c'est très joli, oui, effectivement, François. Et Victoria, ça suffit, le prénom, ça suffit à lui, Victoria, première reine d'Écosse. Et puis, Nicolas Bonnal, qui est notre premier invité. Le deuxième invité sera Madame... c'est un peu difficile, j'ai honte de dire que j'ai du mal à prononcer son nom, parce que quand on s'appelle Beckett, on ne se moque pas des noms, d'ailleurs je ne me moque pas. C'est Madame Oosterkwijk, qui est une spécialiste de la question du sanctuaire soumis au carbone. On l'avait reçu il y a quelques temps, au carbone 14. On l'avait reçu il y a quelques temps, et puis j'avais été obligé d'interrompre l'entretien, parce que naturellement, j'avais pas vu passer le temps. Jean-Pierre Rondeau.
Bonsoir.
Qui est comme une particule.
Bonsoir.
Pratiquement.
Notre expert financier indépendant.
Et puis votre serviteur Serge de Beketch. Et dans la deuxième partie, nous recevrons quelqu'un qui appartient à une association pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, parce que j'aime bien le nom, c'est l'association Robin des Toits. Et c'est des gens qui s'occupent notamment de la pollution électromagnétique et ses effets sur le vivant. Ce monsieur s'appelle Marc Sandrier. Et donc, nous l'interrogerons sur les effets possibles de l'électromagnétisme et des téléphones portables et autres objets de progrès. Voilà. Quant à Nicolas Bonnal, nous parlerons avec lui de son livre, qui est un livre que, non pas que je vous recommande, mais que je vous commande au sens presque britannique du terme de lire, parce qu'il est fort beau. Il s'appelle « Les mirages de Juarez et autres contes latinos », car Nicolas, qui est un grand voyageur devant l'éternel, a vécu longtemps en Amérique du Sud, où il va retourner, je pense, prochainement, s'il n'est pas mort d'ici là, parce que le seul fait d'être à Paris le transforme en une espèce de zombie un peu verdâtre et asthmatique. Mais ça ne va pas durer. Dès qu'il va retrouver les glaciers de Patagonie, il va renaître. Et son livre est un livre de contes chamaniques. Vraiment, c'est ça. J'ai découvert que Nicolas était un chaman. L'actualité est fort intéressante. J'ai découvert aussi que Madame Sarkozy, née de, je ne sais plus quoi, d'ailleurs peu importe, avait une carte Visa qui était prélevée directement sur le trésor public.
Elle l'a rendue aujourd'hui.
Oh, bon, on n'a même plus le temps de rigoler maintenant.
Et on a le temps de faire que deux factures.
Et on a appris qu'on ne nous a pas dit quand ça avait commencé, mais que ça a toujours été comme ça pour toutes les premières dames.
Ah ouais?
Et je serais étonné qu'Yvonne de Gaulle eût une carte bleue. Vous savez, c'est pas la mode à l'époque.
Yvonne, t'as ta carte, disait de Gaulle.
En paraît-il, c'était le chef de la sécurité qui d'habitude payait à la place des grandes dames.
Voilà. J'ai connu un garçon qui était garde du corps de à Loué. Loué parce que d'abord il était doué pour ce métier, il le faisait bien, et d'autre part parce qu'il louait ses services. Et il travaillait pour les femmes des émirats arabes. L'essentiel de son travail consistait à se balader non pas avec des cartes de crédit, mais avec des valoches pleines de dollars. Une dans chaque main, et ils descendaient de la voiture en suivant la Fatma, et quand ils arrivaient chez Dior, ils posaient les deux valises, clic-clac, ils ouvraient les valises, ils sortaient des paquets de liasses, enfin des liasses de 500 ou 1000 dollars, ou je sais pas quoi, et ils payaient les folies de ces dames, qui s'achetaient, paraît-il, des dessous extraordinairement affriolants, parce que pour le dessus, c'est pas terrible, non, ça fait un peu sac à patate, mais il paraît qu'à l'intérieur, c'est, voilà, en dessous, ça se passe bien. Et donc, ça on a fait des progrès depuis. C'est vrai qu'on imagine assez mal Madame Sarkozy
Avec des valises
avec, à part sous les yeux, mais non, avec un garde du corps se baladant avec des valoches pour acheter ses dessous élégants.
Oui.
Hein. Donc j'ai fini toutes les plaisanteries que j'avais préparées sur la carte.
Non, elle l'a rendue.
Oh
et pourquoi l'a-t-elle rendue? Puisque le porte-parole de l'Elysée nous a expliqué que c'était normal et qu'il nous a laissé entendre qu'Yvonne de Gaulle s'offrait des bijoux et des robes de soie rue du Faubourg Saint-Honoré aux frais de la République. Pourquoi l'a-t-elle rendue?
En tout cas, je veux dire, de toute façon, quelques dépenses qu'ait fait Mme Sarkozy avec sa carte, elle nous aura coûté moins cher que de Gaulle avec l'Algérie. Donc, on ne va pas lui faire des reproches.
Bien
sûr. Voilà. Bon, et bien alors, je ne sais plus quoi
Madame dire. Mme Pompidou est morte, on va faire des économies de ce côté-là.
Oh, ben, Mme Pompidou, tiens, j'ai des excuses à présenter, parce que, puis je vais raconter une histoire, en profiter. Mme Pompidou, quand la chère Pompidou a éclaté, j'étais à Minute.
Ah oui, l'affaire Markovitch.
L'affaire Markovitch. Et à Minute, on a quand même pas mal participé à la diabolisation de Pompidou et de Madame Pompidou. Et je dois dire que j'ai vraiment des remords parce que... Hein, vous vous rappelez de ça, François?
Je m'en rappelle, oui.
J'ai des remords parce que finalement, je crois que c'était quelqu'un de très très bien.
Bien sûr.
Et quand on compare ce qui a suivi, on se dit qu'effectivement, Pompidou était certainement pas si mal que ça. Mais on était acharnés contre lui, acharnés de haine. Et je me souviens qu'un jour, je remplaçais François Robotte, qui était parti en vacances, et en m'abandonnant imprudemment le service photographique dont il était le patron. Je peux raconter ça, François?
Mais vous m'avez parfaitement succédé, en quelque sorte.
Enfin, pas, disons, j'ai pallié votre absence pendant quelques jours. Et je vois arriver un type qui me dit, j'ai des photos à vous vendre, mais c'est très cher. Alors, je dis, bah, écoutez, montrez-moi. Et il me montre des photos de dames tout à fait déshabillées, sur lesquelles ces photos présentaient une dame qui avait la tête de Madame Pompidou, tout à fait déshabillée, en présence d'une dame qui avait la tête d'une jeune personne du spectacle, dont je ne citerai pas le nom, de variété, et qui se livrait à une conversation intime fort intéressante. Je regarde la photo et je dis au type, mais vous vous foutez du monde, c'est un montage grossier. Et il me dit, mais pas du tout, pas du tout, du tout, c'est une photographie qui a été prise discrètement. Alors effectivement, elle n'est pas de très bonne qualité. J'ai dit, attendez, si elle a une tête comme ça, c'est une hydrocéphale, la tête trois fois plus grosse que la photo de l'illustration
supposée. Photoshop n'était pas encore inventé.
Non, Photoshop n'existait pas à l'époque. On avait du mal. Il fallait vraiment être un virtuose du montage.
Au ciseau et à la lame de rasoir.
Et à la lame de rasoir, exactement. Donc j'avais refusé d'acheter cette photographie à ce garçon qui a fait une belle carrière par la suite, d'ailleurs, car il est devenu directeur d'un journal qui a bien marché. Et je lui ai dit, vous avez exactement 2 secondes pour sortir de mon bureau, parce que comme j'étais tout jeune, j'étais naturellement mal embouché. Alors il est sorti et il était allé voir... Jean Boiseau, qui était directeur de Minute, en disant « J'ai été maltraité par un de vos collaborateurs à qui je voulais pourtant vendre des photos intéressantes. » Et Jean Boiseau lui dit « Faites voir vos photos, mon cher Alain. » L'autre lui sort les photos et Boiseau lui dit « Vous avez une seconde pour foutre le camp de mon bureau. » Voilà. Et donc je suis assez content d'avoir évité quand même de dépenser de l'argent pour acheter ces saloperies, mais j'ai un peu honte d'avoir maltraité cette dame Pompidou. Vous avez une jolie histoire aussi sur Madame Pompidou, vous marquez, sur sa gentillesse, sa générosité.
J'ai dû rappeler, moi j'ai bien dû vous raconter ça, mais
si, avec Pierral.
Ah oui, bien sûr. Pierral, tout le monde sait qu'il était nain, bien sûr. Et
il a le cachet quand même.
Il avait fait une jolie carrière quand même, et s'il avait eu une taille à la norme, il aurait pu jouer le Cid, c'était un vrai comédien en plus. Et les Pompidou l'aimaient beaucoup, mais comme tous les comédiens de l'époque, il n'avait pas fait très bien ses affaires, donc il avait parfois des difficultés d'argent. Et Madame Pompidou, sur ses fonds à elle,
avec la
carte de crédit du ministère des Finances, avait acheté dans mon quartier, c'est comme ça que je l'ai su, rue Berthe, Berthe au grand pied, pour Pierral, c'est amusant, un appartement.
Pompidou, c'est pas mal aussi.
Ravissant, oui, en plus. Et tout avait été aménagé à la demande de Madame Pompidou, comme une maison de poupée, c'est-à-dire que les interrupteurs étaient à la hauteur de pierre, le lavabo à la hauteur de pierre, l'évier à la hauteur de pierre, il a fini ses jours dans cet appartement. Voilà. Et c'était un cadeau de Monsieur et Madame Pompidou, qui avaient reconnu en lui son talent.
C'est l'appartement que Sarkozy a pris comme garçon.
C'est ça, voilà. Ben, c'est gentil de m'avoir appelé ça. J'ajouterais que tout à l'heure, j'ai dit nous ferons des économies et ça fait, ça ferait une retraite de président de la République en moins. Ça m'empêche pas d'avoir une certaine affection pour Mme Pompidou qui a encore peu de temps. Je voyais à l'opéra, toujours élégante, charmante, gentille, et puis apportant son soutien à tout ce qui est culturel. Alors, en bien ou en mal, mais bon.
Elle avait de l'allure quand même. Voilà. C'est vrai qu'elle avait de grands pieds, mais elle avait de l'allure.
Qu'est-ce qu'on peut dire de sa fondation charitable, pour ne pas dire caritatif, hein, laissons ça à l'extrême gauche.
Allez, moi, je vais te répondre que je m'intéresse uniquement à ce qu'elle faisait à l'Europe, c'est-à-dire pour l'opéra. Le reste, je me sens pas concerné. Excuse-moi.
C'était une vraie question, alors j'en ai pas la réponse.
Je sais pas te dire ce qu'il en est de son association, comment ça fonctionne pour les personnes âgées, etc.
Voilà, je voudrais saluer mon ami Patrick Devedjian aussi, qui vient de faire parler de lui brillamment.
Vous savez, il n'a pas été sanctionné, mais il aurait dû pour divulgation de secrets d'État.
J'ai connu Madame Comparini. Un journaliste finit par croiser deux ou trois personnes dans son existence. Et je crois que c'est vraiment très exagéré l'appellation qui lui a été adressée. Très, très, très exagéré, oui. Cela dit, il faut quand même reconnaître que dans la série des faux culs, nos hommes politiques, ils se portent pas mal. Hein. Parce que quand vous les entendez en privé...
Ah ben évidemment.
Et encore en privé, c'est-à-dire ne répétez pas à plus de 200 personnes. Hein. Ils ont un langage, ils échangent des injures. Alors, quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils s'injurient dignement. Monsieur, vous en êtes un autre, et vous-même, je ne vous le fais pas dire, etc. Quand ils sont à la buvette, c'est « Alors mon pote, qu'est-ce que tu bois? Tu prendras bien un petit scotch avec moi ?» Et quand ils parlent de celui avec lequel ils viennent de trinquer à leur copain, c'est cette espèce de fumier, t'as vu cette ordure, etc. J'essaye d'éviter les pires grossièretés. Et naturellement, Devedjian n'est pas le dernier, parce que, bon, lui, il a été... disons qu'il est un petit peu... brut de décoffrage, quoi.
Hein? Oui, mais alors, moi, je m'étonne de ne pas voir monter au créneau les chaînes de garde et tout ça, qui emmerde tout le monde pour un oui, pour un non. Et là, un ministre, un peu président des Hauts-de-Seine, se laisse aller à ce genre de truc. Bon, c'est pas très grave, mais c'est le moment ou jamais de partir en cavalcade derrière lui.
Et leur subvention, alors.
Ce qui est amusant dans cette histoire, on voit. Moi, je sais pas, vous n'avez pas vu le film de la scène. Non. Vous l'avez vu, Jean-Pierre?
Moi, je l'ai vu.
Qu'est-ce qui vous a frappé?
Que c'est coupé tout de suite après qu'il
ait parlé. Autre chose qui est très frappant, c'est qu'il regarde la caméra. Il est en train de parler. Et le plus vulgaire des trois, c'est pas lui. Hein.
Oui,
c'est, comment s'appelle-t-il, le type qui lui présente le jeune élu, là. Ouais. Oh, qui est d'une vulgarité, alors terrifiant. Il dit, alors vraiment, on sent, ça sent le poisson. Je sais pas qui est ce type.
C'est pour ça que je dis que le fait que ça soit coupé juste après son intervention, ça paraît qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose qui a été coupé.
Et alors, en tout cas, Devedjian jette un coup d'œil vers la caméra. Il voit qu'il est filmé, enregistré. Il le voit, c'est évident.
Il le dit quand même.
Et il le dit quand même. Alors là, il y a une espèce de provocation, d'assurance de l'impunité. Je sais pas à quoi ça correspond. C'est un peu son caractère, lui, à ce type-là. Mais alors, lui faire le reproche d'avoir dit ce mot, qui est un mot du vocabulaire courant,
ça vient.
Par rapport à ce qu'ils disent en général entre eux, c'est quand même une assez bonne hypocrisie. Je me demande si les hommes politiques sont pas un peu hypocrites. Hein, quand on sait que Sarkozy, par exemple, la dernière fois qu'il a parlé de Fillon, il a dit c'est un con.
Je voudrais savoir, c'est un Fillon ou c'est un con?
Les deux.
La distance est courte.
Et surtout depuis qu'il n'y a plus de Périnée.
Voilà. Quand vous lisez le livre d'Azouz Begag, il raconte comment Sarkozy l'a insulté en le traitant de bougnoul. Enfin, bon, ouais. Ça va très loin, là aussi.
Mais c'est pas une injure, ça. C'est une grossièreté.
Oui, dans les deux sales cons de bougnoul.
Enfin, effectivement, s'il faut préciser. Voilà. Autrement, moi, j'étais pas à Paris ces temps-ci. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé
Beaucoup de pluie. Oui. Vous étiez au bord de l'eau, nous aussi.
Non, j'étais faire une expérience à Venise où j'ai visité le laboratoire du mondialisme. C'est hallucinant ce qui se passe à Venise. C'est vrai, hein, c'est très très impressionnant. La partie touristique, c'est-à-dire le centre. Les gens qui vont à Venise ne sortent pas de la Lista d'Espagne, du Rialto et de la Place San Marco. Dès qu'on va sur les côtés, il n'y a plus personne. Mais quand on est dans cet endroit-là, on voit que tous les restaurants, enfin la plupart des restaurants maintenant, sont tenus par des Chinois. Alors la cuisine napolitaine, la pizza napolitaine préparée par des Chinois et vendue à Venise, Ça, c'est une, ce qu'on appelle la cuisine fusion, mon cher François.
Retour aux sources, puisque Marco Polo rapporté dans sa malcabine...
Des nouilles, mais pas...
Des nouilles
pas inventé les Chinois. Les mendiants et les voleurs, qui sont interchangeables, sont tous, sans exception, des gens qui viennent d'Albanie. Je dis pas que c'est des Albanais, parce qu'on peut pas dire que les Albanais sont des voleurs, ça serait déplacé. Même Bush n'ose pas le dire, alors qu'ils lui ont piqué sa montre. Mais disons, c'est des gens qui viennent d'Albanie.
Ils ont piqué le Kosovo à la Serbie pendant qu'ils y étaient, oui.
Ils sont contents d'avoir piqué le Kosovo à la Serbie, ils piquent la montre à Bush. Les magasins de souvenirs, les petites tentes, qui vendent, sous lesquels on vend des trucs en plastique, des machins, des gondoles à poser sur la télévision.
On peut plus maintenant, avec les écrans plats.
Ah bah oui, avec les écrans plats, on peut plus. C'est pour ça que ça se vend de moins en moins. Alors tout ça, c'est tenu par des tamouls.
Ah tiens non.
Ouais. Et tout le trafic de faux sacs à main, faux Chanel, faux Dior, faux ce qu'il faut, etc., c'est tenu par des nègres qui sont esclavagisés par la Camorra et la mafia.
Mais je croyais qu'on les avait chassés de Venise. On l'a raconté dans le Libre Journal il y a un an ou deux.
Ils ont été exactement. Non, mais alors voilà l'histoire. Les commerçants de Venise s'étaient ameutés et avaient dit au maire de Venise, si vous les virez pas, nous on va le faire nous-mêmes. Et ils sont sortis avec des bâtons. Et ils les ont virés effectivement. Là-dessus, les gars de la Camorra et de la mafia, parce que la même chose, ils sont venus. Ils leur ont dit, ils vont revenir. Si vous bougez une oreille, on vous tue. Et moi j'ai une bijoutière du Rialto qui nous a dit, on était avec ma femme, elle a dit, si nous faisons quoi que ce soit, ils nous tuent. Ils avaient fait des petites affichettes, les commerçants de Venise qui payent des impôts, qui des patentes, etc., avaient fait des affichettes qui expliquaient qu'il ne fallait pas acheter cette camelote, d'abord parce que c'était de la camelote, deuxièmement parce que c'était dangereux, que si on se fait piquer à la douane, on paye 10 fois plus de le prix du produit original, plus une amende, plus etc., et le produit est confisqué et détruit. Et puis en plus, parce que c'est scandaleux, quoi. Les voyous sont venus les voir en disant, si vous collez cette affiche,
vous êtes mort.
Voilà. Et les flics de Venise, quand ils se baladent dans les... Pas à la nage, hein, parce qu'il y a aussi des endroits où on marche à Venise, contrairement à ce qu'un vain peuple pense. Donc, les nègres les voient arriver, et ils auraient du mal à pas les voir arriver, parce qu'ils viennent à 10, en faisant le maximum de bruit, pour être bien sûr que les gars ont le temps de foutre le camp,
voilà.
Et se feront pas prendre. Et voilà dans quoi... Comment cette ville vit...
Êtes-vous allé au Palazzo Grazzi quand même?
Alors je suis allé au Palazzo Grazzi et je me propose de faire exécuter, dès que j'aurai le pouvoir, monsieur, comment il s'appelle?
François Pinault.
François Pinault, oui. Je pense que je le ferai pendre, je ne sais pas encore avec quoi, peut-être avec du fil de fer barbelé. Parce que vous savez que le caniche gonflable qui était à l'entrée, ils ont enlevé le caniche, ils l'ont remplacé par une gigantesque tête de mort.
Ah oui, oui.
De 2,50 m de diamètre, fabriqué avec des cafetières en acier. Mais c'est très bien fait, cela dit. Hein. Ils ont soudé des cafetières les unes avec les autres. Et sur le plan technique, c'est parfait.
Ces gens-là ont un grain, quand même.
Ah, ils sont raides fous, oui.
Ils ont un grain de café.
Non, mais c'est des malades. D'ailleurs, tous les gens qui organisent...
Ça s'appelle un bide.
Oui. Il parlait du grain de café.
Le grain de café. Non, mais oui, j'ai bien compris. Tous les gens qui organisent des expositions à Venise sont des cinglés.
Oui, toujours, oui, bien sûr.
C'est-à-dire des expositions de crottes de chiens, des expositions de têtes de mort, des expositions de je sais pas quoi, de n'importe quoi, tout ce qui est le plus laid. Et on comprend pourquoi, c'est une des plus belles villes du monde.
Il faut l'enlaidir.
C'est complètement...
Elles ont 100 ans à peu près, ces plaisanteries-là, si je ne me trompe, c'est le mouvement Dada, c'est l'urinoir de Duchamp. Ça a 100 ans, là, on pourrait pas trouver une autre blague?
Cela dit,
la blague, ça serait de faire des trucs beaux. Ouais.
Cela dit, on échappe au portrait de Monsieur François Pinault en Capitaine Nemo, par, comment il s'appelle, Gilles et Paul, Paul et Gilles, les deux PD là qui font des trucs de toutes les couleurs.
Les deux artistes
qui exposent en ce moment au jeu de paume des trucs d'ailleurs extraordinaires. Et ben il y a un portrait de Pinault en Capitaine Nemo. Pierre et Gilles, c'est ça, voilà.
Voilà, Pierre et Gilles.
Ouais. Et donc, il n'est pas à Venise, le portrait du chef.
Je sais que Fillon n'est pas content contre vous. Hein.
Qui ?
Fillon.
Qu'est-ce qu'il a fait ?
Matignon s'énerve contre les petits marquis. Hein.
Ah bon ? Ah oui, oui, c'est vrai.
Grand marquis, alors...
Voilà, je veux dire la crainte.
Voilà.
Et le fion ne bon. Fait pas peur, en plus.
Rendez-moi le canard enchaîné.
Le canard enchaîné, parce que vraiment...
Surtout parce que le canard enchaîné nous raconte dans tous les détails ce qui se passe au monde. On ne peut pas laisser passer une émission sans s'incliner devant la crise au monde et l'attitude courageuse de nos confrères. Bon, on a déjà raconté, et on n'est pas les seuls, bien sûr, comment ils ont désavoué M. Colombani, qui s'est accroché bec et ongles, mais qui a fini par décrocher quand même. Alors, même chose avec Minc, le président du conseil de surveillance, qui s'est cramponné bec et ongles, mais qui a dégagé quand même.
Ah, il a dégagé, Minc ?
Oui, du conseil, de la présidence du conseil de surveillance. Alors, évidemment, ça laisse...
Je me demande comment ils vont faire leur journal.
Oui, et surtout comment là, ils vont conserver cette haute moralité qui les caractérise. Alors, ce qu'il y a de bien... C'est que la direction du groupe, de l'énorme groupe qui est devenu Le Monde, et c'est pourquoi il est en perte depuis 15 ans et qu'il est endetté de 130 millions d'euros, après le rachat de Midi Libre, de Télérama, de Politis, enfin d'une douzaine de titres, est donc passé sous la direction de Monsieur Jeantet. Et vous savez qu'on a un très vilain camarade que les auditeurs connaissent bien, qui s'appelle Emmanuel Ratier, qui s'empresse de signaler que le père de Monsieur Jeantet dirigeait la revue France, la revue de l'État Nouveau sous Vichy,
oui,
et que son oncle...
C'est Gabriel.
Voilà, et que son oncle, Claude, je crois, dirigeait Le Petit Parisien sous collabo, sous l'occupation.
Pour une fois qu'on a des journalistes
de qualité,
d'origine garantie, on va pas se plaindre, non. Alors là, franchement, moi je trouve que c'est assez déplacé. Gabriel Jeantet, c'était même mieux que ça, c'était le parrain de Mitterrand dans l'ordre de la Francisque. Un des deux parrains de Mitterrand dans l'ordre de la Francisque.
Alors j'espère que nos amis du Monde sont à l'écoute, parce qu'ils ont oublié de mentionner tout ça. Et pourtant, ce sera l'occasion de souligner qu'ils n'ont plus rien à voir avec aucune espèce de collaboration.
Mon cher jeune camarade, vous oubliez que Le Monde a été le refuge de la collaboration la plus sympathique, je dirais. La preuve, c'est qu'il les était...
La plus dévouée.
La plus dévouée, la plus sympathisante, je voulais dire. Pas sympathique, parce que Dieu sait que j'ai aucune sympathie pour les collaborateurs. Là, franchement, moi, personnellement... Vraiment.
Alors que vous n'êtes entouré que de collaborateurs.
Oui, alors que je n'ai que des collaborateurs, et je m'en félicite autour de moi. Et donc, le chroniqueur gastronomique du Monde, pendant longtemps, était... Comment s'appelait-il, ce bon garçon ?
Robert J. Courtine, alias Larainière.
Alias Larainière. Et Robert-Julien Courtine avait été en... à la Libération, il avait eu quelques petites difficultés, mais n'en parlons pas, quoi, c'est pas, parce qu'il avait publié, c'était un type, il était assez marrant d'ailleurs comme bonhomme, mais on peut dire qu'il n'avait pas vraiment le sens des opportunités, parce que en juin 44, où il s'est passé quelque chose sur le plan historique sur lequel je ne reviendrai pas, il a publié un magazine spécial intitulé « Je vous hais » et qui était entièrement dédié à manifester les sentiments qu'il portait aux Israélites. Et il y avait une photo de Blum en couverture de ce journal « Je vous hais », Blum à l'Assemblée nationale, en train de hurler sa haine des Français. On disait qu'il avait crié à l'Assemblée nationale « Je vous hais ». Et que c'était aux Français qui s'adressaient, alors que c'était pas vrai. Il ne haïssait que l'extrême droite, et ça, c'est parfaitement normal. La moindre des choses, quand même.
Je peux témoigner que ce Larainière, en 94, avait pris sa retraite du Monde, et qu'il a tout naturellement enchaîné et meublé ses loisirs, sa retraite, en assurant la chronique gastronomique du quotidien Le Français, qui venait d'être lancée par nos camarades Maigret, Laura Chinel...
Ce qu'on appelle un retour aux sources. Voilà. Mais donc, c'est pas la première fois que... Pardon, François.
Il était redoutable à l'époque, parce qu'il y a actuellement quelques... On va pas les nommer aujourd'hui, mais ça viendra bien au cours de différentes émissions. Il y a de véritables terreurs qui savent absolument pas manger que Victoria. Je n'ai rien contre Victoria. Je vous prends à titre d'exemple. Et que nous, le restaurant reste un choix. Courtine faisait régner la terreur. Il avait une anecdote extraordinaire, et il était très ravi et très heureux de la raconter. Et il se rend dans un restaurant et il commande un coq au chambertin. Et le maître d'hôtel lui dit, et monsieur avec ça, qu'est-ce que vous allez boire? Et il dit, du chambertin, mais nous n'avons pas de chambertin.
Ah, merveilleux ça.
Robert Julien Courtine. Donc c'est pas, on peut pas tenir grief, faire grief à Monsieur Jeantet, d'abord des choix de son père.
Avec lesquels il a radicalement rompu, puisque maintenant il ne collabore plus à rien et il n'est pas vautré devant un quelconque occupant.
Ah ben non, ça évidemment, il n'en est pas question. Voilà.
J'espère que nos amis du Monde ont pris des notes, parce que tout ce qu'on vient de raconter là, c'est malheureusement absent de leur beau journal qui est en vrille. Comme, vous savez, ils font le marquer furieux d'ailleurs, parce que ils essayent de faire mondain et people. Ils ont passé une page entière sur les amours William, où on en a parlé dans le journal. Ils ont mis Paris Hilton à la une. Et avec ça, ils sont toujours en vrille. Ils ont perdu 19% en un an. Alors, s'ils parlaient des antécédents de Monsieur Jeantet, ça ferait peut-être remonter les ventes.
Mais vous pouvez pas reprocher à un journal comme Le Monde de ne pas écrire dans ses colonnes la vérité sur son patron. C'est un peu comme si on vous reprochait de ne pas dire dans le Libre Journal que j'ai été franc-maçon. Franchement, enfin, écoutez, c'est quand même...
Vous êtes là pour le dire et pour le répéter, c'est pas nécessaire.
Oui, ça c'est le vieux système, comme dirait l'autre. Comme ça, je me le sers à moi-même avec assez de verve.
Mais je ne permets pas qu'un autre me le serve. Ils sont bien dressés, vos collaborateurs.
Bon, et bien maintenant, comme prévu à l'horaire, il est 18h30 tapante, et je me tourne vers Nicolas Bonnal, que je salue, parce qu'il a eu le courage de venir, alors que visiblement, il n'était pas...
Il dort debout.
C'est pas qu'il dort debout, c'est qu'il est...
D'autant
Nicolas,
qu'il est
quand il est à Paris, il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, zombifié. Mmh. C'est vrai, non ? Quelle impression ça vous fait, Nicolas, d'être à Paris en ce moment, à part une espèce d'endormissement général de la personne ?
Quand je suis rentré l'an dernier, tu te souviens que j'ai fait un papier qui s'appelait « La France cool et l'extinction du lepénisme » que tu n'as pas passé, que tu as fini par passer, que Dumay avait passé dans les quatre vérités, et Randa. Et j'ai quitté la France à peu près en 2000-2001, il y a eu le fameux attentat, puis il y a eu le fameux deuxième tour, puis il y a eu le tsunami, puis il y a eu le passage à l'euro... Il y a eu l'effet long terme de l'histoire d'Internet, nouvelle voie initiatique avec la fabrication de techno-zombies. Et au bout de 5-6 ans, on récolte cela, c'est-à-dire une extinction de l'espèce humaine, qui est particulièrement visible sur Paris. Alors je relisais l'autre jour Mumford, Technique et civilisation, et il parle du problème de la mécanisation de l'esprit humain qui développe le nationalisme et le militarisme à la fin du 19e siècle et qui aboutit au charnier des deux grandes guerres mondiales, auxquelles, en tant qu'idiot utile, on a évidemment bien participé. Et là, on est dans une nouvelle phase du techno-déterminisme à partir de SMS. Ça, c'est plutôt pour les filles. T'as l'impression que ces appareils ressemblent de plus en plus à des petits fœtus. Elles sont devenues complètement à faune, c'est le cas de le dire. Elles sont traînées en laisse par ces agrégats psychomoteurs. Les garçons, je le vois aussi en Amérique du Sud, parce que ça, je l'ai constaté aussi en Amérique du Sud. Il n'y a pas que les paysages. Hélas, là-bas, il y a aussi les gens. Ils sont 8 heures par jour devant les jeux vidéo ou devant les programmes de télévision. Et tu arrives à créer une humanité complètement déphasée et qui est un monument de zombification. Alors c'est vrai que quand je suis à Paris, je n'ai plus comme avant ces espèces de nostalgie. Alors hop, le jardin du Luxembourg, allez hop, telle galerie du Louvre, allez hop, Montmartre, qui me tenait. J'ai plus ça. Alors c'est ce que tu as expliqué à l'instant, je vais laisser parler parce que je trouvais que tout ce que tu disais était très bien, alors qu'avant, effectivement, j'aurais tout de suite rebondi sur Venise. Dire que quand tu es dans un recyclage permanent de tout ce qui est beau, qui est immédiatement recyclé par le système pour le polluer et le corrompre, tu n'en peux plus. Là, on a eu un exemple avec cette campagne présidentielle où, jusqu'à la nausée, Sarkozy a recyclé le discours nationaliste pour se foutre de la gueule du monde le soir même. Le soir même, avec Pomponnette qui débarque de Londres, qui tapote dans le dos à Doc Gineco et Johnny, etc. Et nous, on a accepté ça. Je veux dire que je parlais d'une nuit à l'opéra avec un copain là que j'ai vu là il y a deux jours. La première fois qu'on s'est rencontrés, avec ce garçon il y a 20 ans à l'opéra. C'était un club, le club Marco Polo, tu sais, parce qu'on parlait de Venise. Puis on avait une altercation, on avait les baramines dans la voiture. T'imagines aujourd'hui, c'est un gars qui aurait les baramines dans la voiture. Et le copain qui avait les baramines, il était RPR du Midi. Ouais. C'était un con, putain con de Marseille, mais c'était pas du tout un facho ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on est mais dans une extinction des feux, mais totale. Ouais. Ouais. Les gens sont morts. Moi, je l'ai vu en Espagne, quand je suis venu l'an dernier, j'ai atterri à Madrid en pleine Gay Pride. Et les mecs se baladant, sac à main dans la rue, main dans la main, c'est normal, mais avec sac à main aussi. Et ils étaient 600 000 comme ça. Et il y avait alors tu parlais de mondialisation. J'étais dans des immeubles dans le centre de Madrid. Alors il y avait que des latinos, des équatoriens qui sont payés 300 euros quand on les paye. Et puis avec une queue, c'est le cas de le dire, d'Australiens gays qui essayaient de monter. Et où que tu ailles, quoi que tu fasses, maintenant tu as cette impression de désastre total. J'ai fait ce papier que t'as passé sur Monaco. Monaco, ils ont construit Fos-sur-Mer et ils ont construit Vénissieux et ils ont construit Antifer du Havre à côté de Saint-Tropez ou sur Saint-Tropez. Ils en ont rien à foutre. Et le mec, il arrive avec 40 000 euros le mètre carré, il va se retrouver dans une zone industrielle avec 60% d'Africains comme population. Et le mec, les 40 000 euros, il les paye. Et par rapport au fait que, justement, c'est l'avare qui triomphe cet hiver et qui a triomphé avec Bouquet, là, comme par hasard, l'avare, parce que les gens ne peuvent plus penser qu'au pognon. À 10, 12, 15 000 euros le mètre carré, tu ne peux pas penser autre chose qu'au pognon, parce que l'espace est dévoré par l'argent. On est dans le pur règne de la quantité. Avant, on en parlait, on s'en moquait, on se disait, allez, il reste une petite place pour le fromage. C'est la chanson de Boris Vian. Il casse le monde, il en reste un petit peu. Là, c'est fini, les garçons. C'est fini. C'est 20 000 euros le mètre carré à Nice. C'est des baraques à 25 millions d'euros au Cap d'Antibes. Et c'est 15 à 25 000 euros le mètre carré à Paris. Et tu la fermes. T'es pas content, c'est pas grave. Tu as la tente Quechua. Et puis après, t'auras une bonasse de multimilliardaires qui viendra te faire passer à la télé sur iTélé. Et on est là-dedans. Et à côté de ça... Je viens ici pour faire la promotion de ce pauvre livre par pitié pour mon éditeur qui est un héros de l'édition, mais tu avais parlé il y a 15 ans quand on avait croisé Madame Gallimard, Simone Gallimard, qui était venue là par erreur, elle ne savait pas, la pauvre femme, ce qu'elle venait faire. Tu lui avais dit, mais vous faites du mécénat. Mais effectivement, c'est du mécénat. Mais là, c'est total. T'as 300 000 bouquins dans les librairies, personne ne va rien lire, puisque le peu qu'on lit, c'est des textes de 300 signes sur Internet. Les mecs sont morts et ils vont acheter Marc Lévy ou Guillaume Musso, Ligne et les autres pendant quelques petites pages, et c'est terminé. On va pas prendre autre chose. Et à côté de ça, t'as aussi toutes ces révolutions technosexuelles, de métrosexuelles, cette mode pour pauvres. Hier, j'avais rendez-vous avec un copain de l'armée. Je suis son bon antisémite, parce que tu sais qu'avant on avait nos bons juifs, mais maintenant c'est l'inverse, et les juifs ont leurs bons antisémites, et je suis content d'être le bon antisémite de beaucoup de juifs. Donc comme ça, moi je peux l'ouvrir. On était au PUF, et les PUF c'est un magasin de freins qui s'appelle Delavenne, ça doit être fabriqué en Chine, ils te vendent ça, des chemises à 5 euros, des blousons à 9 euros, et des pantalons à 9 euros.
Spécialisé dans les obèses.
Voilà, ouais, bon, enfin là, ils ont de la veine, parce que c'était pas cher, c'est encore moins cher qu'au Pérou. Alors ça, par contre, c'est pas les prix de l'immobilier de l'Amérique du Sud. Hein. Ça, si quelqu'un ne sait plus où se loger, il a qu'à partir là-bas. Mais enfin, bref, tu me dis, j'ai l'air éteint, qu'est-ce que tu veux que je dise hein? Qu'est-ce que tu veux que je dise dans ce monde ébouriffant, on va dire, ébouriffant.
Est-ce que c'est vraiment différent quand on part? C'est ça, ou est-ce qu'on n'emporte pas ça à la semelle de ses souliers?
C'est
oui, de désespoir quand même, parce que...
Il faut être un peu dans le mouvement. Là-bas, la vie est moins chère, tu peux être quand même plus acteur de ta propre vie. Tu peux construire tes excursions, tu peux aller dans la forêt, tu peux aller dans la nature, mais il y a aussi ce problème que je racontais dans les chroniques d'Orbigueur, le désert payant à Atacama. T'arrives au Chili, t'es à 3000 mètres d'altitude, t'as l'impression d'être dans une mecque de glace ou de désertique magnifique, etc. Ah mais attendez, là, c'est une réserve pour tribu Kichouchois, vous leur devez 2000 pesos et payez. Et avec des barbelés partout, et tu traverses l'Argentine, tu te retrouves aussi avec 500 000 pancartes de pub pour Monsanto et le maïs transgénique et la vache au sein refait par les docteurs Follamour de la biochimie interplanétaire. Et il faut dire merci, et ben je dis merci, mais enfin non, ça devient de plus en plus dur. Il reste le bateau, je vais peut-être me mettre skipper, mais enfin ils doivent bien te surveiller aussi en bateau. Hein. Oui, ben, non mais là, on est arrivé réellement dans un monde qui était celui de la science-fiction, avec aucun des avantages de la science-fiction, qui pouvait être, je sais pas, Blade Runner, les trucs qui volaient en l'air, qui étaient sympas, marrants, le décorum, etc. Mais on a tous les inconvénients. C'est-à-dire qu'on est codé génétiquement, on est conditionné par ça, on est codé mentalement et on est retraité intellectuellement. Avec les gens qui se bagarrent avec 300 mots de Global English, comme ça. Mais jusque-là, on en parlait, là c'est vraiment arrivé. Et c'est vrai que cet attentat des deux tours, on en a parlé il y a 5-6 ans, bon, c'est évidemment un coup monté, c'est une évidence totale, il y a moins de 3000 morts. Ils abattent les deux tours, et quand tu abats les deux tours aux échecs, qu'est-ce qui te reste? Les fous. Et actuellement, on est vraiment dirigé par les fous. Ou que ce soit ou Blair, ou des ripoux, ou des bishops, hein, des évêques, enfin une caste sacerdotale devenue dingue. Et ils ont fait baisser les taux d'intérêt à 1%, donc ça a fait quadrupler l'immobilier d'une manière à peu près planétaire. Ça, il faut quand même le dire, parce qu'en Angleterre, ça a triplé alors qu'ils ne sont pas en zone euro. Moi, j'en voulais beaucoup à l'euro, mais il n'y a pas que l'euro. L'Espagne, j'ai vu les prix augmenter 30% le jour même en zone euro. Pour aller à Malaga, cher Marquis, j'allais chercher une copine. Le billet était à 135 pesettes, c'est-à-dire 5 francs 20, et il est passé à 1 euro, c'est-à-dire 166 pesettes, le jour même. Et c'est là que le système est fort quand même. Je le fais remarquer au chauffeur de bus. Ce con, ça faisait 3 heures qu'il bossait, il n'avait pas remarqué. Ah si, pero, oh coño, ha subido mucho. Ben oui, bravo, bravo. Le mec, il vend un billet toute sa vie, il ne voit pas que ça a augmenté 30%. Mais quand on est con comme ça, les gens, ils auraient tort de se priver, en haut. Ils auraient tort de se priver. Sarkozy. Et Sarkozy, il me plaît parce que c'est monsieur sans gêne. C'est vrai qu'il a un côté Louis-Napoléon Bonaparte, super badingué, avec Pomponnette, là, qui arrive à 9h.
C'est la une de Marianne, ça. Ouais, le troisième empire.
Mais je l'ai dit il y a longtemps, ça. Hein. Je l'ai dit il y a 2-3 mois, c'est le second empire qui revient. Ouais. Et j'ai un copain qui t'a envoyé son petit truc, là. Donc, il y a un côté second empire parodique qui peut se terminer catastrophiquement, type 1870, je sais pas, si on est envahi par la Corée.
L'histoire se répète en farce, en principe.
Oui, oui, c'est ce que dit Marx, c'est vrai, ça c'est une des grandes choses qu'a pu dire Marx. Mais pour en revenir à cette question essentielle, parce que pourquoi les gens sont devenus insupportables, c'est quand même le techno-déterminisme. Ça, on sous-estime constamment les effets de la technique ou de la technologie sur les gens. On crée une humanité nouvelle à partir du moment où on utilise l'automobile. Et d'ailleurs, c'est marrant, ils ont créé une humanité de gens soumis. Ça aussi, j'en parlais l'autre jour avec un ancien patron de l'Express. Je lui disais la servitude volontaire de la Boétie. C'est extraordinaire comme texte, la Boétie, parce que ça se passe dans la cité antique.
Il l'a écrit, il avait quoi, 16 ans?
16 ans, oui, donc le copain de collège de Montaigne, je préfère le préciser, hein. Qu'on ne me fasse pas de remarques, je préfère quand même le préciser. Et c'est pas un mec qui habite au métro la Boétie et qui est en face de l'Élysée et qui travaille dans des bulles au ministère de l'Intérieur. C'est Étienne de la Boétie, jeune humaniste, donc il parle de Nietzsche et Syracuse. Il parle de l'Antiquité grecque. Donc, c'est comment, avec très peu de choses, on transforme l'homme en chose. Mmh. C'est le pain et les jeux. On a eu ça avec Gladiateur au début des années 2000. Et le conditionnement est fait facile. Et aujourd'hui, effectivement, avec la technique et la technologie, c'est encore plus simple. D'autant que les gens ont l'impression que leur existence virtuelle remplace leur existence physique.
Ah, c'est frappant.
Les gens sont des lâches physiquement aujourd'hui. Oui. Et là, il y a plus de réaction du tout dans ce système. On l'a vu avec cette élection. Plus de contestation de gauche, plus de contestation de droite et plus de contestation même écologique. Puisque finalement, les écolos ont fait que 1% ou les altermondialistes. Tu parlais de Ratier quand je l'ai revu ce printemps. Lui non plus, il était décalé. Pourtant, c'est le mec le mieux informé du monde. Mais il se disait, oui, ça serait marrant. Il le disait en plaisantant, mais pas trop. Un deuxième tour, Beauvais-Le Pen. Mmh. Or, on est arrivé à un système où, 2 ans après le non au référendum, on est à 85% Bayrou plus Sego plus Sarko, qui sont des gens du oui au référendum. Donc, ça veut dire que les gens n'ont plus de mémoire. Et ça, c'est lié aussi à la technologie, à l'information. Et j'ai un élève à Monaco qui m'a dit... Un poisson d'aquarium, sa mémoire, c'est 3 secondes. C'est peut-être plus que celle d'un électeur de Sarkozy, hein, j'espère. Mais donc, il fait le tour de l'aquarium, il se cogne, il fait demi-tour, il repart. C'est ça, c'est 3 secondes. Donc, effectivement, dans un système comme ça, tu t'amuses. La seule chose, on en revient toujours au problème écologique des catastrophes. Alors, soit il n'y a pas de catastrophe écologique qui nous attend, et il y a juste un racket qui est organisé par Stern et les banques Rothschild et le reste, pour réclamer 500 milliards d'euros, c'est ce qu'ils vont nous réclamer d'ici 20 ans, soit on va vers une catastrophe, mais la loi du profit immédiat est telle et tellement folle, avec tous ces fonds de pension qui s'agitent partout, et c'est le type là qui, avec 1% du capital, essaye de racheter la banque Barclays ou la banque ABN AMRO. ces gens-là ont besoin de gesticulation, ils ont besoin de balancer les camions à l'autre bout de la Chine ou à l'autre bout de l'Europe. L'an dernier, je suis allé en Roumanie, j'ai vu que des champs de soja et de tournesol partout. C'est-à-dire que le paysage agricole européen a disparu. Et l'Allemagne était recouverte de camions. Et ils ont supprimé l'autarcie, ils ont supprimé les régions économiques partout pour qu'on ne fasse qu'importer et exporter. Impôt, export, ouais. Impôt, export.
Mais en même temps, on peut s'interroger sur le motif. Il n'y a pas de motif économique, il n'y a pas de raison économique à tout ça. Parce que le fric a atteint un tel degré de virtualité qu'on pourrait dire qu'ils sont 1000 fois plus riches, ça ne changerait rien.
Non, non. C'est-à-dire,
un appartement...
Moi, j'ai des copains à Monaco, 40 000 euros, ils vivent mal.
Voilà, ils vivent
40 000 euros, ils vivent mal par mois. C'est ce qu'ils gagnent, ils vivent mal, ils me le disent. Ils ne plaisantent pas, je peux le prouver.
Tu parlais du bateau... à Monaco qui a fait de l'huile là,
oui.
Qui est un truc qui fait combien
le Lady Moura il fait 110 mètres
110 mètres de long. Bon, il pourrait faire 1,8 km de long.
Oui.
Le type verrait même pas l'échec sortant de son compte.
Abramovitch, on fait bâtir un cinquième et pendant ce temps là l'âge moyen des Russes a baissé de 10 ans et la mortalité est plus basse qu'en Haute-Volta et personne n'a réagi que je sache en Russie.
Non,
ils te disent
sûr.
De temps en temps, tiens, on va trouver un Bekech local, oh là là, quel méchant nazi, etc. Mais les gens se sont laissés troussés, volés par les oligarques, avec un génocide qui est du niveau de celui des bolcheviks.
Oui, mais alors la question, c'est derrière ça, qu'est-ce qu'il y a ? Parce que l'expliquer tout par l'économie, le commerce, la finance et tout ça, ça vaut rien, c'est pas une explication recevable. Il y a forcément une volonté mauvaise, mais qui est une volonté préternaturelle. Moi, c'est la seule explication que je vois. Cette volonté de détruire, de salir, de souiller, de pourrir, d'abîmer les gens et tout. On voit, je vais revenir sur Venise. Il y a un truc qui m'a frappé énormément, c'est que, et ça tu l'as fait remarquer dans plusieurs articles que tu as publiés, c'est cette obsession des jeunes gens de vouloir ressembler à des copies vendues par les nègres de stars du show business. C'est-à-dire, ils se baladent avec des t-shirts de chez Cabana, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais, Dolce Gabbana.
Alors, ça vaut une fortune chez Dolce Gabbana.
Mais c'est la mode métrosexuelle.
Voilà.
Et sur la Côte d'Azur, ils font des rendez-vous, des meetings à Beaulieu-sur-Mer ou ailleurs, toutes les semaines ou deux fois par semaine. Ils font des présélections pour les Star Academy, où ils essayent d'avoir le look Beckham ou de Madame. Et t'as également un développement, une explosion de l'anorexie chez les filles.
Alors, on voit des gamines, gamines jolies de 16-17 ans, tatouées comme des putes. Parce qu'il n'y a que les putes qui se tatouent de cette façon-là, c'est monstrueux. Le cou sur la tête, sur les joues, des tatouages obscènes. On voit des types qui se rasent le crâne comme le joueur de foot taré. Là. Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas une définition suffisante, le joueur de foot taré. Comment il s'appelle le Beckham.
Oui, Beckham.
On voit des filles qui sont... pas autre chose que des putains, du genre de Angelina Jolie, alors qui essayent de ressembler à Angelina Jolie, Dieu merci, elles n'y arrivent pas toujours, parce que là, il faudrait qu'elles se fassent des trous dans la couenne avec une chignole pour arriver à imiter les trous de vérole. Donc, elles sont bien obligées, quand elles ont 16 ans, elles passent encore là.
En tout cas,
il y a cette espèce de monstruosité permanente, de laideur, de la mode, du costume, des ustensiles, des ceintures, des sacs à main, des trucs. On sent qu'il y a c'est sale, ça pue, c'est vilain, c'est laid. Mais on se dit, c'est pas possible, c'est l'autre qui part en dessous, est en train de manipuler tout ça. Il y a une folie démoniaque là-dedans.
On peut toujours, j'avais fait une polémique là avec Asquin, comment il s'appelait ton.
Oui, Asquin.
Asquin, ouais, c'est qui m'avait amusé. C'est, on peut toujours dater la fin du monde de son époque, et puis on peut toujours dire que, voilà. Tout ce qu'on vient de dire, on lit Marx, le manifeste du Parti communiste, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit la bourgeoisie a noyé dans les eaux glaciales du calcul égoïste l'extase du monastique et l'héroïsme chevaleresque.
Manifeste du Parti communiste, 1848. Oui. Platon aussi a écrit
voilà,
quelque chose.
Voilà, on peut faire Platon, on peut faire les Grecs. Moi, j'ai relu au Brésil pour apprendre le brésil, le portugais Spartacus, que j'ai bien aimé.
Ouais.
Et ben, t'es affolé. Parce que toute cette classe riche anglo-saxonne qui rachète l'Italie, la Côte d'Azur ou ces oligarques, tu les as déjà sous l'Empire romain, et ils achètent en plus des esclaves, alors comment on n'a pas d'esclaves, voilà.
On a un vieux gag avec Plantès, c'est de citer le livre de Job, quand chaque fois qu'on parle du tourisme, qu'on parle de la nouveauté, le caractère nouveau, original du tourisme dans le livre de Job, quand Dieu cherche le diable, il lui dit « Où étais-tu ? » Et le diable répond « J'étais en train de faire du tourisme. »
Bah
il dit, j'étais en train de marcher de par le monde. C'est ce qui est la définition même du tourisme.
C'est le sujet d'un de mes contes, celui que je t'ai dédié. Mais il y a aussi autre chose, la première chose que fait le Christ dans l'évangile de Saint Jean, c'est pas de virer les marchands du temple, il faut bien relire le texte, c'est de virer les changeurs. Mmh. Et là, le bureau de change, là, ouais. Ce qu'ils ont fait, là, chapeau. Hein. Parce que moi, je suis arrivé en Argentine après la crise catastrophique monétaire qu'ils ont eu financière de 2002, et puis j'ai vu la catastrophe de l'Europe, et l'euro a divisé par deux notre pouvoir d'achat, et ça s'est bien passé, parce que c'est ça qui est rigolo. Ça me rappelle Le Pen quand il disait « Nous allons être submergés par l'immigration ». On l'a été, ouais. Et alors ouais. Eh ben, quand t'es submergé, tu vis avec un scaphandre. Eh ben, tu survis très bien. Et les gens s'habituent à l'enfer. On a assez tous de copains libanais, pas seulement des copains juifs, pour savoir qu'au bout de 30 ans de guerre civile, de terrorisme palestinien, de bombage sioniste, etc., eh ben, tout le monde va bien au Liban. Et ils s'y sont faits à l'enfer. Mmh. Eh ben, bienvenue au le 21e siècle. Sera religieux ou ne sera pas. Il ne sera pas, eh bien, bienvenue à ceux qui ne sera pas.
C'est-à-dire qu'il est religieux et il n'est pas en même temps. Pas, c'est une belle réussite.
Oui.
Alors, je voudrais quand même qu'on parle... Oui, mon
pardon,
petit Victoria,
quand Nicolas Venal va-t-il arrêter ses vociférations et nous parler du royaume intérieur?
Eh bien, on va parler de son royaume intérieur tout de suite, voilà. Mais ce n'est pas des vociférations, je ne suis pas du tout.
Les gens sont de plus en plus sympas ici, hein, Victoria.
Bon, ben, moi, j'ai un autre message. Hein. Et je cite « Extraordinaire, un régal, félicitations
voilà, ». C'est
point, ouais, fermé les guillemets.
C'est ça qui est intéressant dans cette radio. C'est que... ouais, alors, ce bouquin paru chez Michel Debré. D'abord, c'est un joli objet d'édition. J'aime bien le papier, oui. Tout, c'est bien fait. Et il faut saluer Michel Debré parce que dans l'édition actuelle, à part lui et puis notre ami Benoît Mancheron,
Via Romana,
c'est assez rare de voir des bouquins bien imprimés et bien faits. Alors, ça s'appelle Les Mirages de Juarez et autres contes latinos. Alors, je veux dire que. On en avait parlé, je les avais lus avant, puisque tu me les envoyais, j'en ai même publié un ou deux, je crois. Mais je n'avais pas vu la ligne directrice, comme je l'ai vu en le lisant là. Et je lui ai dit, c'est un livre de chaman. C'est-à-dire que c'est le livre de quelqu'un... On a l'impression de lire le livre de quelqu'un qui en a tellement marre de l'humanité qu'il a décidé de se transformer en animal.
Oui. Bah, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur le chamanisme. Donc, tu as des contes plutôt eschatologiques.
Oui.
Par exemple, la bataille des champs patagoniques.
Oui, ça c'est très très.
Ces trois types qui arrivent à El Chalten, pour ceux qui connaissent, dans le sud de l'Argentine, et la fin du monde a lieu, une espèce de fin du monde. Donc, ils doivent survivre dans un univers qui est préparé par cela, puisque tous les milliardaires américains ont acheté leur ranch là-bas, et donc ils essayent de faire leur place au soleil.
Moi, ce qui m'a frappé dans la bataille
du commando Bariloche,
et le commando Bariloche, ouais. C'est que c'est deux contes qui font 10 pages.
Ouais.
Et vraiment, avec ça, un écrivain américain du genre Stephen King ou Ludlum, il fait un bouquin de 800 pages. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une densité dans le récit qui est impressionnante. Et puis, il y a...
Tu as un autre conte qui est plus triste, c'est la pluie. Donc, en fait, le déluge commence, comme actuellement sur Paris, tout déborde. Les Indiens, les pauvres Indiens dans un village se retrouvent au sommet d'un algarobo, d'un caroubier géant. Et puis, ils reçoivent la visite des touristes en bateau qui ont fait fortune avec le déluge.
Ouais.
Et les gars leur piquent un gosse, essayent de leur adopter un gosse. Donc ça c'est autre chose.
C'est très enfin, je sais pas ce qui t'a inspiré,
comme ça,
mais
ça se passe. Hein. Maintenant, chaque pétasse du showbiz va faire ses courses.
Elle va faire
ses courses. Et le sac Vuitton et le gamin, il n'y a pas de problème.
Mais ce conte, la pluie, c'est tout à fait l'ambiance du bouquin de Raspail. Comment s'appelle-t-il Les derniers des hommes, mais. Vous voyez pas un de ses premiers bouquins sur la disparition de l'espèce patagone,
oui.
de la race patagone.
Alors Raspail, je lui ai dédié.
Désespérance.
Jean Raspail, je lui ai dédié un des contes là, l'amant de glace. Donc en fait, parce que quand on s'est rencontrés plusieurs fois grâce à toi, parce qu'il aimait bien les chroniques de Horbiger dans le Libre Journal. Donc on a un peu sympathisé au téléphone, je suis allé le voir, et lui alors il aimait bien les croisières Navimag, pour ceux qui connaissent encore, tu pars de Puerto Montt, nord de la Patagonie chilienne, et puis tu descends jusqu'à Punta Arenas, où les aviateurs français commettaient leurs exploits dans l'entre-deux-guerres. Avant de faire faillite d'ailleurs, parce qu'en fait l'aéropostale a quasiment arrêté de voler en 31, ouais. c'était une histoire assez triste. Hein. Alors j'avais écrit aussi un conte sur un aviateur.
Didier Dora.
Et donc cet amant de glace, c'est en fait un type qui a séduit une femme, qui est tombée et qui est devenu un iceberg qui fond progressivement avec le réchauffement climatique. Mais chaque croisière passe devant et le voit. Ouais. Alors c'est celui très que j'ai dédié à Jean Raspail, et il m'a envoyé un mot très gentil, c'est d'ailleurs le seul courrier que j'ai reçu, si ça peut rassurer les ceux qui veulent écrire des livres. On en vend zéro, alors il vaut mieux connaître d'abord Jean Raspail plutôt que d'attendre un courrier des lecteurs.
C'est vrai qu'il envoie des lettres extrêmement gentilles. Ouais. Genre, j'en ai reçu une qui m'a fait plaisir récemment, encore que c'était pour engueuler mon jeune camarade Goffman, qui c'est la faute à Goffman, bien entendu.
C'est la faute à Goffman, qui s'est permis de rapporter des propos de table dans le Libre Journal.
Mais c'était très, avec la délicatesse et l'élégance qu'on connaît à Jean, c'était une lettre tout à fait.
Et par rapport au chamanisme dont tu parlais, il y a effectivement le conte du condor et du puma, ouais. avec un père et un fils qui se métamorphosent l'un en puma et le fils ensuite en condor.
Alors ça, c'est complètement.
Parce que tu sais qu'au Machu Picchu, t'as trois niveaux de lecture. T'as le niveau tellurique du lagarto, du lazare, tu as le niveau du lion, enfin du puma, du tigre aussi, ouais. disent, et évidemment le niveau du condor. Et suivant l'orientation par rapport au ciel, par rapport à la cité sacrée, tout ça, tu vois en fait ces trois dimensions magiques du royaume des morts, du royaume des vivants et du royaume des dieux. Et ça, on l'avait dans nos traditions. Hein. Moi, je ne suis pas du tout à plat ventre devant les traditions indiennes là-bas. Profond respect, parce que je suis content d'avoir retrouvé ça. Mais c'est ce que tu as en Grèce aussi, mais avec 50 000 fois de touristes en moins là-bas qu'ici. Ouais. Quoi.
Mais ça, c'est un conte où j'ai retrouvé l'ambiance du film de
Mel Gibson.
Tout à fait.
Apocalypto.
Pas du tout aimé. Apocalypto. Mm. Que vous aviez trouvé Marty vraiment trop violent et trop sanglant, et moi j'ai trouvé admirable parce que j'ai vraiment vu un hymne à la paternité.
Oui. Et la femme qui accouche dans le puits plein d'eau, c'est magnifique, t'as tous les symboles sur l'eau, c'est un très grand film. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, ils font demi-tour quand ils voient arriver les Espagnols avec
les missionnaires. Oui, ils se sauvent littéralement.
Ils se sauvent.
Ouais, il emmène sa femme.
Et il dit, bon, finalement, 500 ans après,
c'est sur l'Apocalypse à lui.
Mais quand tu fais Mexico, Lima et les favelas, t'es assez d'accord avec cette vision-là quand même.
Et puis il y a cette fascination chez toi des colibris. Alors là, c'est d'un seul coup, tu m'as écrit, tu m'as envoyé des lettres, tu m'as envoyé un article, tu as ce conte sur les colibris. Qu'est-ce qui te fascine?
Je crois qu'ils ont une vibration différente parce qu'ils peuvent voler jusqu'à 5000 battements en minute. Ils ont 2 à 3000 battements de cœur minute. Ils peuvent descendre à un battement minute quand ils traversent l'altiplano et qu'ils dorment et que la nuit tombe à froide à moins 5, moins 6 degrés. Et il n'y a plus que l'estomac et le cerveau qui fonctionnent.
Comme des gens, quoi.
Et en même temps, leur cri est trop aigu pour qu'on puisse l'entendre. En même temps, la paléo-ornithologie ne leur a pas trouvé d'ancêtre. Et ils ont une densité de plumes qui est 25 fois celle du cygne, par exemple. Donc c'est un oiseau qui a des pouvoirs miraculeux. Et le fait qu'il puisse se nourrir tout le temps en volant et uniquement de suc des fleurs, comme les anges devaient normalement se nourrir d'ambroisie, ça me donne une image du paradis, du cosmos. Mmh. Donc effectivement, je vais retourner là-bas, je vais aller dans ma selva Mindo près de Quito, et je vais rester là quelques temps. Alors là, je serai moins transi de glacitude comme à Paris. Donc le colibri joue, mais là-bas j'ai eu la baleine, puisque j'ai fait un texte qui s'appelle Le ventre de Jonas, qui est aussi lié au symbolisme de la baleine et de Jonas, évidemment, puisque c'est une espèce de fuite du réel. Sauf qu'au départ, le garçon en fait n'est pas avalé par une baleine, mais par un immeuble. Et il devient la voix de l'immeuble. L'immeuble est détruit, ensuite il s'écarte, mais il est muet par contre.
C'est ce qui arrive, c'est probablement ce qui est arrivé à Ben Barka. Il a été avalé par les fondations d'un immeuble.
Oui, les fondations. Ouais. C'était une fin digne de Bouygues.
Ouais,
oui. Le roi du CAC 40 et le témoin de mariage du président. Ouais. Non, bref, alors au départ, j'ai quand même écrit, il faut que j'écrive, que je décris. Donc, je faisais ces blagues pour toi de Horbiger. Puis un beau jour, je me suis dit, moi, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus sérieux, je vais quand même faire des contes. Et Raspail m'avait dit, écrivez quelque chose de sérieux, parce que vos chroniques sont quand même trop déjantées. Il me l'a dit dans 2006. Donc, je retourne là-bas et je commence à écrire à Salta, donc dans les Andes argentines, puis à Potosi. Mais j'ai pas gardé le conte sur Potosi. D'ailleurs, je l'ai pas gardé parce que je l'ai pas encore écrit. Alors, en fait, ça serait en fait des touristes qui cherchent à rencontrer le diable dans la montagne aurifère de Potosi. Et la ville est magique. Elle est vraiment impressionnante. C'est vraiment une montagne magique. Et puis, je l'ai terminé à La Paz, la ville où je m'étais évanoui 2 ans avant et malheureusement où je ne suis pas mort. Et donc ça a joué là-dessus et j'ai décidé de faire ces comptes. Et après, en discutant avec Thierry Delacroix, mon éditeur, Michel Demaulle, 41 rue de Richelieu, je...
Voilà, c'est dit maintenant.
Voilà, Michel Demaulle, 41 rue de Richelieu. Et vous le trouvez facilement dans Internet ou tout ça, donc vous pourrez commander le livre ou commander d'autres livres parce qu'il est, c'est surtout un éditeur de musique, hein.
Donc, c'est dans le deuxième arrondissement de Paris, la rue de Richelieu.
Non, c'est le premier, là. C'est en face de la Fontaine Molière.
La partie élégante.
C'était l'adresse des éditeurs.
Et on a décidé de garder, ce qui relevait de l'Amérique du Sud. Ce qui était finalement peut-être pas une bonne idée. Bon, enfin bon, c'est comme ça qu'on a fait, mais ça donne une certaine unité au texte. Le seul texte qui ne soit pas de, mais je l'ai gardé parce que je l'ai dédié à ma mère, seul texte qui ne soit pas d'Amérique du Sud, c'est Ropa Vecchia. Ouais. Alors je préfère quand même raconter un peu l'histoire. Ropa vecchia en italien, ça veut dire les vieux vêtements. Ropa, roba,
ouais, comme les affaires, en espagnol,
les vieilles affaires. Et donc à Tunis, il y avait toujours un vieux paysan qui passait avec son âne et sa charrette, et on faisait des échanges où on nous vendait des vieux vêtements. Et je me suis inspiré de ça pour faire une histoire, puisqu'en fait, le ropa vecchia lui vend un enfant sa vie en deux tomes. Mais l'enfant n'a que le premier tome, parce que la mère a fait disparaître le deuxième tome. Donc en fait, le conte tourne à partir de ce problème. Et alors ça, c'est celui-là, il est made in Afrique du Nord, comme on dirait aujourd'hui, mais il n'est pas made in Latin America.
Il est de là-bas.
Pour Jean-Pierre Rondeau, pour ma maman aussi, qui est pied noir quand même.
Effectivement, certains petits métiers de la ville d'Oran.
Voilà, c'est moi je me suis régalé. Bon, c'est vrai que on se connaît depuis suffisamment longtemps avec Nicolas pour que ça me...
Non, puis je vends suffisamment peu pour que tu fasses des compliments. Hein.
Mais oui, ça, on peut dire effectivement que
j'avais pas publié
c'est pas l'affaire commerciale du siècle.
J'avais plus envie de publier. Et d'ailleurs moins que jamais. Bon, là, j'ai repris quelques contacts parce que ça occupe sur Paris. Mais c'est vrai qu'on a l'impression d'une disparition intégrale de la vie littéraire et même un peu de la vie politique. J'ai été frappé en perdant mon année cette année en France par la nullité totale des commentateurs politiques à la télévision. Il faut dire qu'ils avaient à commenter que Sego et Sarko, alors qu'il y a 25 ans, on devait commenter des choix de société autrement plus importants entre Mitterrand et Giscard. Et même quand il y a eu le petit rebond libéral et un peu national dans les années 80, ça avait atteint à nouveau une certaine sommitude, comme dirait Ségolinitude. Mais là, on est arrivé à un niveau de bassitude effrayant. Donc, dans les commentaires et tout ça, c'était pas la peine. Moi, j'avais plus envie de publier, puis bon, il s'est trouvé que Thierry m'a proposé ça, donc c'était une proposition que je ne pouvais pas refuser.
Il faut dire aussi que tu as un défaut, ça je peux en témoigner parce que je l'ai éprouvé plusieurs fois, tu es en avance toujours. Et je me souviens de la colère que j'avais pris quand j'ai lu le Coq hérétique. C'était un bouquin qui m'avait vraiment foutu en pétard. Je disais, c'est pas possible, il a rien compris et tout. Et bien, non seulement il avait compris, mais il avait tout compris 10 ans en avance. Et c'est à peu près constant. Internet Voix Initiatique, c'est pareil. C'est un livre qui était très en avance, qui a été copié. Je sais pas s'il a été copié, parce que
qu'il a été assez lu, pillé, mais bon.
Il a été pillé, certainement, hein.
Il y a, le problème dans ces histoires-là, c'est que c'est bon d'avoir raison et de gagner après, si tu veux, comme Napoléon sur un champ de bataille, de voir plus vite et de disposer mieux de l'adversaire après. Et moi, malheureusement, j'ai peut-être la première phase du talent, mais pas la deuxième.
Mais c'est-à-dire qu'on fait une partie d'échec où quand l'adversaire sent qu'il est en train de perdre, il met un coup de pied dans l'échiquier. Alors, effectivement, on peut pas gagner, là.
Il a enlevé les deux tours, l'adversaire. Donc, va jouer aux échecs sans les tours. Ça te fait tout drôle. Et ils ont fait ça en 2001. Ça a été un boulot rondement mené. Et le système est devenu insaisissable. Hein. Et il s'arrêtera par sa folie propre, mais il n'a plus d'adversaire en plus, le système. On en est là.
Oui, mais c'est ça, c'est les effets du politiquement correct, c'est interdit d'être l'adversaire du système.
Serge, alors,
oui, alors à vous, questions, réponses, réactions.
Tous aussi méchants que certains messages peuvent le faire croire. Alors, une auditrice nous dit, merci pour votre hommage à Madame Pompidou. L'analyse de Nicolas Bonnal est remarquable. Il m'est arrivé de quitter la France et de ressentir la même angoisse au retour. Nicolas Bonnal, dit cet auditeur, a les mots exacts pour décrire notre monde actuel. Monsieur Bonnal, question. Avez-vous lu le livre de Marie-Julie Johannet? C'est une femme qui a vécu de... Johannet, pardon. qui a vécu de 1850 à 1941, elle avait prévu tout ce qui est arrivé, car tout lui était dicté par la Vierge Marie, et ses prédictions ne sont sorties qu'en 1974. Elle avait prédit en particulier l'envahissement des Mahométans.
Servitude volontaire, Labo ici parle du gouvernement par les tavernes et les bordels. Donc l'explosion de la pornographie, de la prostitution qui est planétaire.
C'était déjà.
Et voilà, bon, c'est les sept péchés capitaux, il n'y a rien de mystérieux.
Mais Marie-Julie Giovanni, elle avait effectivement. C'est intéressant, ces prédictions.
Si on veut lire un livre.
Messages.
Et incroyable sur les médias, sur la révolution technologique des médias, il faut relire les lettres persanes de Montesquieu.
Ah oui.
Mais c'est fou! Oui. Le portrait du persan qui est dédoublé dans toute la cité et qui rend les gens fous, c'est exactement la société dans laquelle on vit à Paris maintenant. Et ça date de 1721, je crois, les lettres persanes. Pardon, Victoria.
Le premier livre, vous cherchiez tout à l'heure, alors le nom du premier livre, le titre du premier livre de Jean Raspail, c'est « Le dernier des hommes », nous dit cet auditeur. C'est le peuple des Alakalufs en Patagonie.
Voilà.
Et un autre nous dit que ce titre, c'était « Qui se souvient,
qui se
des,
souvient
hommes.
Des hommes ?»
Il y en a deux qui nous le disent.
Merci beaucoup, chers auditeurs.
Un auditeur et une auditrice, voilà. Serge, le joueur de football chauve dont vous parliez, c'était pas Beckham, mais Barthez.
Ah non, je parle pas de Barthez. Barthez, il est plutôt rigolo.
Il est pas méchant.
Barthez. Non, Barthez, il est d'abord
français.
On lui
a fait assez de mal médiatiquement
oui.
pour que...
Non, c'était bien justement. Beckham que je voulais dire. C'est parce que Barthez, il est...
Mais Beckham est payé 36 millions d'euros par an, pas pour son football, mais parce que
il incarne quelqu'un
que l'on veut copier.
Ouais,
c'est un moule. Beckham est un moule. Il n'a pas d'existence psychique vraisemblablement. Sa femme non plus. D'ailleurs, c'est une anorexie folle. Ils sont côte à côte comme deux sacs vides. Mais il y a un milliard d'imbéciles qui veulent se cloner sur eux et donc on les paye en conséquence.
Alors, ça revient un peu sur ce qu'on a dit avant. Monsieur Cendrier fait-il appel du procès perdu contre Bouygues?
Alors là, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas.
Il paraît, nous dit cet auditeur, que le gouvernement, ou les vilains, veut installer un réseau de surveillance vidéo pour les grandes villes, dans les grandes villes de France.
Oui, mais ça, j'ai entendu ça effectivement tout à l'heure. Sur France Intox, c'est évident, c'est à ça que ça sert. Cet attentat, ou cet attentat raté en Angleterre, qui à mon avis est totalement aussi bidon d'ailleurs que
Bien sûr.
Précédent qui lui avait réussi, et que l'attentat contre les tours, c'est destiné à rendre inéluctable la mise en place du système de surveillance de Big Brother. C'est-à-dire que si vous dites non, vous êtes complice des terroristes. Alors on invente des terroristes, et on dit contre ces terroristes qu'on a inventés, il faut des systèmes de surveillance. Et si vous êtes contre les surveillances, vous êtes pour le terrorisme. Et donc on vous tue.
Voilà. Il y a longtemps que ça existe à Monaco. Hein.
Oui, mais pour d'autres raisons. Parce que...
Encore qu'à Monaco, il y a de moins en moins de sécurité.
Je crois que le film de Terry Gilliam, qui s'appelait Brasil, a 20 ans. Il y a un moment qui dure 10 secondes, mais qui est vraiment passionnant. Il y a une bombe qui explose dans un lieu public. La police anti-émeute arrive en courant et tabasse les blessés au sol.
Oui. C'est un très très bon film, Brasil. Ouais.
Mais t'as le Panopticon de Bentham qui annonce ça avec 200 ans d'avance, et puis évidemment l'œil vigilant chez Tolkien. Hein.
Ah oui, c'est exactement ça, l'œil de Tolkien.
On est vraiment dans le Mordor là.
Dans le Mordor.
Ce que je trouve d'extraordinaire, moi, c'est quand même, parce qu'il faut une pensée pour ça, je pense souvent au Docteur Dor que j'ai croisé ici, qui est un héros, et je le salue encore, mais je le salue quand même, parce que en Inde que j'ai connue, en Inde que j'ai célébrée, parce que j'aimais bien aussi ce côté païen, polythéiste, etc., je m'en cache pas, je m'en suis jamais caché, mais ils massacrent des centaines de milliers de petites filles par an, parce que par l'endoscopie, ils savent que ce sont des filles, donc on les massacre.
Mais ça,
si on sait que ce sont des femmes, parce que alors les féministes voulaient l'avortement, vous l'avez, connasse, on vous
tue. Ah bah oui, ça, alors là, tout à fait, d'accord.
Tu le voulais, mais enfin, c'est drôle de dire que l'avortement n'est pas un assassinat quand on sait le sexe de la victime, quand même. C'est bizarre, hein.
Ouais.
Elle n'existe pas, mais on sait que c'est une femme, donc on la tue, c'est drôle.
Ouais.
Cette nuit, après la vague d'OVNI, il y a eu, sur Ici et Maintenant, 2 heures sur le chamanisme. Les cendriers sont invités fréquemment sur Ici et Maintenant. C'est parce que c'est les cendriers, mais vous devez savoir.
Non, parce que je reçois ce soir M. Cendrier, mais c'est l'animateur de... Enfin, c'est non, un des...
Moi, je refuse... Bon, tu as dit le mot chamanisme, je le refuse en ce qui me concerne. J'ai écrit un bouquin il y a des années qui s'appelait « Lancelot et la reine ». Et je parlais du problème du symbolisme animal dans les contes du Graal. Et bon, il y a une fête qui m'est très chère, c'est celle de Saint-Hubert, et cette idée du saint proche des animaux qui peut se métamorphoser en animal, c'est une idée qui date qui est totalement ancrée dans notre tradition.
Ah, mais bon,
il faut que ça soit clair dans les oreilles de certains.
Parler de chamanisme, ça ne veut pas dire qu'on célèbre les capacités des sorciers à se transformer en puma
ou qu'on fait du paganisme.
Ou en singe savant, bien sûr.
Non, ça veut dire qu'on est quand même enraciné dans une tradition qui veut ça, quand même.
Bien sûr.
Monsieur Bonal, aimez-vous toujours Villefranche-sur-Mer?
Bien sûr, j'y vais souvent. Il y a une superbe dalle, enfin une carrère, c'est marrant, comme dans le pays catalan, qui date du XIIe siècle. Ouais. Par contre, c'est plus dans mes prix, hein, Villefranche-sur-Mer, mais c'est autre chose. Mais alors, ce qui est marrant, c'est tu fais le tour de Cap Ferrat où ils vendent des baraques à 25 ou 30 millions d'euros, et tu as les gardes du corps, mais comme dans un Miami Vice, qui traînent là avec les armes. Et la police française, elle verbalise.
Si tu mets pas ta ceinture pour aller voir les gardes du corps qui sont armés jusqu'aux dents. Hein.
Mais serrez-vous la ceinture, c'est vrai que c'est un moyen de casser la mentalité. Moi, j'ai un copain qui habite Vézelay, qui a eu des problèmes avec la police. Hein. Il doit faire des stages de récupération. Il doit récupérer ses points. Ils l'ont condamné à 3 mois de prison parce qu'il avait le téléphone et qu'il a eu 2 mois de travers. Il a dû passer la nuit au poste et il a pas pu appeler. Je veux dire, ils ont soumis les gens en leur serrant la ceinture de sécurité. Et la voiture a été, à partir de la Chiraki, de la naissance de la Chiraki, un moyen de dressage social féroce. Hein. Mais le système est rentré, parce que c'est pareil en Angleterre, avec ce mélange de workhouse et de panopticon qu'ils ont mis en place avec Blair et son projet Blair Witch, et avec la Chiraki et Juppé en 97, quand ils ont commencé à nous exploser la gueule avec les impôts, et avec les contrôles de l'automobile. Là, et c'est à ce moment-là que l'immobilier, d'ailleurs, comme par hasard, a commencé à monter. Et là, il y a une conjuration. Alors, c'est toujours pareil. C'est tellement réussi que ça peut pas être combiné comme ça, parce que ça réussit rarement aussi bien quand
c'est tout à fait voulu. En tout cas, c'est pas quelqu'un de droite qui l'a fait,
ça
n'a pas marché.
Non, mais en tout cas, à partir de 97, on est rentré dans une nasse, comme dans un trou de lavabo, et vraiment, on va avoir du mal à en sortir. Hein.
Ne pensez-vous pas, demande cet auditeur, que nous sommes dans une bulle immobilière telle qu'on n'en a jamais vu auparavant? Qu'en pensent les experts en économie du Libre Journal?
Je ne sais pas si beaucoup d'experts...
Moi, on me dit, Chinois achètent 100 milliards d'euros de bons du trésor américain. Comme tout le monde, je me disais, les Américains, avec les déficits qu'ils ont, ils vont se casser la gueule. Ils ne se sont pas du tout cassés la gueule. Ils ont maintenant 70 000 milliards de dettes, de dollars privés et publics. Donc, on est dans un système de pure fiction. Ouais. Et moi, je pense que, hélas, il peut durer. Il peut durer. En Espagne, quand je suis arrivé en Espagne, je pouvais encore acheter pour 300 000 francs un truc de 80 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est à 300 000 euros. Et en Espagne, les gens sont endettés à hauteur de 400 milliards d'euros en 10 ans, grâce à Aznar et ensuite à ces séides socialistes. Mais ça, 400 milliards d'euros. Ça tient pour l'instant.
Ça procède du même système que la ceinture de sécurité. C'est-à-dire que moi, je suis absolument convaincu qu'un des moyens de dressage de l'humanité, c'est l'arbitraire absolu.
Oui.
On dit, vous n'avez pas le droit de téléphoner au volant. Bon, moi, je veux bien, mais alors, il faut pas, on n'a pas le droit d'écouter la radio non plus. Ou on n'a pas le droit d'avoir une conversation avec la personne qui est derrière. Parce que c'est exactement la même chose. Quand on est en voiture et qu'on parle avec son passager qui est assis derrière, c'est exactement comme si on lui téléphonait. Donc, l'interdiction du téléphone est complètement arbitraire. L'obligation de porter la ceinture est totalement arbitraire, parce qu'après tout, si j'ai pas envie de ceinture, si j'ai envie de me tuer en voiture, c'est mon problème. Bon. Donc, si on crée un arbitraire comme ça, on finit par dresser les gens à accepter n'importe quoi. Et alors, on arrive au système où on vous dit, si vous voulez pas de terroristes, il faut que vous ayez Big Brother. Vous n'avez pas le choix, hein. Ou c'est Ben Laden qui vous fait sauter, ou c'est Big Brother qui vous enferme. Alors vous choisissez, vous préférez Big Brother, et ben voilà, vous avez des caméras partout, vous allez pisser, on vous filme, vous sortez de chez vous, on vous filme, vous rentrez chez vous, on vous filme, on sait, vous payez votre autoroute avec la carte crédit, on sait à quelle heure vous êtes passé, à quelle heure vous êtes sorti, à quelle vitesse vous avez roulé, où
la
vous
carte
êtes
Navigo,
la carte Navigo aussi,
la validation est obligatoire, voilà. Et alors moi, un cadre de la RATP m'a dit, oui monsieur, c'est pour fliquer les gens et savoir où ils sont, quel bus ils ont pris, à quelle heure.
La carte Navigo, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, pour nos auditeurs de province ou de l'étranger, c'est une carte qu'on achète et puis après on peut voyager à Paris dans les transports en commun avec cette carte. Mais donc si on l'a sur soi, à n'importe quelle réquisition, on la demande, vous montrez votre carte et puis ça va, voilà. Eh bien, quand vous montez dans un autobus ou quand vous passez dans le métro, vous êtes obligé de valider votre carte, ce qui est totalement imbécile, ça ne sert à rien. Donc vous montrez que vous êtes monté dans cet autobus. À quoi ça peut servir? Ça peut tout simplement servir à archiver le truc. Alors ils vont vous expliquer, bien sûr, que c'est pour savoir quand les gens bougent, ou en gros, s'il y a beaucoup de trafic, s'il n'y a pas beaucoup de trafic, à quelles heures.
Il faut apporter une précision, Serge, c'est qu'au début de la carte Navigo, on s'en servait comme d'un ticket de métro, sauf qu'il y avait un truc spécial. Ça, pour le métro, c'est normal. Et dans le bus, il y avait absolument aucune obligation de rien du tout. Et puis un beau jour, on a vu apparaître des petites boîtes blanches dans les bus, on dit qu'est-ce que ça va être? Et quelques temps après, donc, mais longtemps après la création du Pass Navigo, il était nécessaire aussi de le faire dans le bus. Ça veut dire qu'on a réfléchi à la question après avoir mis ça sur le marché.
Ça, on sait que le marquis d'Olmeta a pris son bus dans à telle adresse, qu'il est descendu à tel endroit. On le sait parce qu'après, quand il reprend le bus pour rentrer chez lui, on voit bien d'où il est reparti.
Ils font la différence entre les deux.
Voilà. Bon, mais c'est pour
ça. Ça économisera de la salive aux flics qui n'auront plus besoin de dire marquis, où étiez-vous tel jour, entre tel et tel heure.
Une belle histoire de flic à nous raconter.
Oui, bah, si vous me donnez 3 minutes, je vous la raconte.
C'est le moment ou jamais.
Bah, figurez-vous qu'après 48 heures d'absence, moi je trouve un message sur le répondeur. Je vous dis pas le nom parce que je l'ai déjà oublié. C'était un commissaire, je ne connais pas les grades, mais enfin
un capitaine, commandant, lieutenant.
Voilà, bref, alors un monsieur important.
Il n'y a pas de caporal chef, je vous le dis tout de suite.
De la brigade financière qui me demandait de le rappeler à tel numéro pour prendre rendez-vous. Alors j'appelle ce monsieur et qui me donne un rendez-vous et qui me dit, vous savez, c'est pas très grave, c'est pour une histoire d'une association caritative, on a un peu de soupçon sur la présidente. Bon, et alors aujourd'hui je pars pour partir rue du Château des Rentiers, je m'étais étonné de pouvoir être convoqué boulevard des Italiens où c'est quand même pour les VIP, là je suis convoqué au Château des Rentiers, c'est moins chic, mais enfin bon. Et alors, il y a un petit supplément à l'histoire. Au moment où je vais monter dans le taxi, place Jules Geoffrin, il y a une dame ravissante, assez jeune, avec un petit garçon à la main et un bébé dans les bras, qui dit « Oh, vous êtes le monsieur du journal ». Je suis très content. Bon, oui, madame. Et je monte dans le taxi, et au bout de 3 mètres, la taxi me dit « Monsieur, vous êtes dans un journal ?» Alors je lui dis « Oui ». Il me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui dis 3 mots. « Oh ben, voilà, dites-moi, je vais m'abonner ». Bien, bon, ça commençait bien. J'arrive rue du Château des Rentiers. Et je me retrouve quelques instants après, reçu très très gentiment par ce flic. Mais je me méfie quand même un peu des flics gentils.
Et je vois... Parce qu'en général, il y a le méchant derrière. Voilà.
Il me fait asseoir et je vois parmi les papiers sur son bureau, je vois à l'envers, une photocopie ou un fax d'un des 3 feuillets relatant le fameux voyage en Chine qui m'avait valu pas mal d'inimitié. Les lecteurs du Libre Journal comprendront. Parce qu'il s'agissait d'un voyage qui avait été organisé par la fameuse association qui a quelques soucis en ce moment. Et je racontais plein de choses assez considérées comme drôles par certains et pas drôles du tout par les personnes concernées précisément. Et alors bon, le gars m'explique ce qu'il en est. J'apprends des choses que je ne savais pas d'ailleurs. Apparemment, la présidente de l'association a confondu son sac à main et la caisse de l'association. Et elle justifie de moyens qui n'expliquent pas qu'elle a une Rolls et des factures chez Chanel. Bon, voilà. Une fois qu'il m'a dit ça, je lui dis, mais moi, vous savez, je vais dans les galas de charité de cette personne, je fais mon chèque, je viens au gala, je rentre chez moi, je laisse refroidir mon smoking et puis j'attends la fois d'après. Alors pourquoi m'a-t-il convoqué? Bah, il me dit, parce que figurez-vous que quand l'enquête a été lancée, j'ai reçu d'une façon sont tout à fait anonymes, cette photocopie, mais j'ai cru comprendre que ça s'étalait sur 3 numéros, là j'ai eu qu'un truc, et je voulais absolument connaître le mec qui a écrit ça, parce que je me suis vraiment marré. Alors maintenant que vous rentrez chez vous, vous m'envoyez le reste.
Écoutez, moi non plus, je peux pas donner de nom, mais je peux indiquer qu'on a plusieurs abonnés à la brigade financière, et que le journal circule, et qu'en ce moment même, ils sont plusieurs à nous écouter en se tapant sur les cuisses. Voilà, j'espère que j'ai pas révélé de secrets trop graves.
Dans les saluts.
Il faut dire à nos abonnés que le fichier des abonnés, lui, ne circule pas.
Ah oui, ça, c'est bien d'accord.
Alors, pour revenir à un livre de Nicolas Bonal, ça s'appelle « Les mirages de Huaraz ». Huaraz.
Oui, alors...
Vous l'écrivez
H-U-A-R-A-Z. Oui, on aurait peut-être dû choisir un titre plus simple. Huaraz, c'est un massif montagneux magnifique qui est situé au Pérou, ce qu'on appelle la Cordillera Blanca, et qui est situé à quelques heures de Lima. Il y a aussi une ancienne civilisation qui s'appelle Chavin, qui est une des plus anciennes civilisations méso-américaines. Et la fameuse montagne de la Paramount au cinéma vient de cette montagne-là, de Alpamayo, elle s'appelle, qui est située dans ce massif de Huaraz. Et c'est un ami péruvien à qui j'ai dédié un des contes, là, qui s'appelle George Smith, avec qui je correspond régulièrement, qui m'a fait découvrir cette région dont il est originaire. Et c'est un endroit miraculeusement bien préservé, encore, en dépit de temps à autre de cruels tremblements de terre.
Quel est ton compte préféré ?
En banque.
Non, mais ça, c'est autre chose.
Vous n'avez pas fini de lire l'adresse.
On va la donner tout de suite.
Mon compte préféré, tout le monde a un fait pour la dame au colibri. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé réaliser le commando Bariloche, mais je sais pas.
Mais ça, dans le faire passer dans la réalité.
On a manqué, quoi.
C'est ce que tu veux dire.
Au niveau du contenu, je réfléchis.
Moi, j'aime bien l'amande glace, je le trouve très très bien.
L'amande glace, oui. Ouais. Jean Raspail, il aime beaucoup aussi. Moi, j'aime bien l'anthropomorphe. Je trouve que j'ai fait un conte d'horreur.
Très, très beau conte d'horreur.
J'ai fait un conte d'horreur qui est bien réussi.
La fin est glaçante.
Ouais.
Absolument glaçante. Ouais. Non, il faut lire. Voilà.
L'anthropomorphe, c'est justement toutes ces statues effrayantes indiennes qui m'ont inspiré ce conte. Voilà,
j'en dis pas plus. Je vois tout à fait qu'il faut faire attention à ce genre de truc. L'autre jour, j'étais au Puce et il y avait un stand de statues nègres. Et ça pue vraiment la sorcellerie pure et simple. Quand on regarde ça, on est glacé de terreur parce que on se dit qu'il doit y avoir des cochonneries qui émanent de ça. Je suis passé au large.
Mais il est clair que la conquista espagnole a réussi en Amérique du Sud parce qu'ils ont mis fin au sacrifice humain et que les indigènes étaient tout heureux parce qu'on parle de dizaines de milliers de morts par an, y compris même chez les Incas, il y avait beaucoup de sacrifices humains. Et chez les Aztèques, évidemment, n'en parlons pas.
Alors, c'est paru aux éditions Michel de Maulle. Ça s'appelle, je rappelle, Les Mirages de Juaraz, H-U-A-R-A-Z, et autres contes latinos, paru chez Michel de Maulle, 41 rue de Richelieu, 75-001, Paris. Et ça vaut 18 euros. Et Nicolas Bonal, qui collabore au Libre Journal, a écrit Le coq hérétique, Autopsie de l'exception française, Internet, la nouvelle voie initiatique, Jean-Jacques Hano, un cinéaste sans frontières, Les territoires protocolaires, qui est un livre qui, à mon avis, a lui 25 ans d'avance. Il sera compris quand il sera trop tard, comme d'habitude. Un bouquin formidable, Mitterrand, le grand initié, qui a aussi été un objet de pillage pour des dizaines de journalistes.
Rends-toi compte qu'à l'époque, j'en vendais des milliers et je passais à la télé. C'est marrant ce qui s'est passé. Non, je vous jure, c'est une fin du monde. J'en parlais avec Jean-Parvulescot, il vendait des centaines d'exemplaires dans les années 90. Il vend zéro maintenant, il ne vend plus rien. Jean Robin aussi, je l'ai régulièrement au téléphone. Le Royaume du Graal sur la France, machin, c'était des milliers d'exemplaires et ça a disparu. Ça a disparu, c'est incroyable. On voit bien la crise du front, de la radio, de tout ça autour de nous et au niveau des écrits, c'est aussi un désastre qui s'est passé.
Il
n'y
a plus que le Marquis et Goffman qui vendent des livres.
Oui, mais chacun son tour.
Serge de Beckett, c'est pas trop malheureux non plus.
Non, mais ce sont des livres faciles, nous, comprenez.
Ah, mais voilà. Moi, j'intéresse.
Merci, Serge.
Merci, Nicolas. Tu restes avec nous?
Un petit peu, oui. Si je tousse pas.
On va essayer de se revigorer et remonter le moral grâce à François Robot qui va peut-être nous dire des choses, nous mettre en appétit, non? Voilà, de quoi vous nous parlez ce soir?
Je vais vous mettre en appétit, je vais souhaiter un très très bon anniversaire à un jeune homme de 95 ans qui s'appelle Georges Well, qui tenait un restaurant Le Volant, rue Béatrix Dussane. Alors messieurs, je veux en savoir grâce à vous un peu plus sur Béatrix.
Sociétaire de la Comédie Française, professeur au conservatoire. Voilà.
Voilà. Donc c'est une petite rue qui est logée près du métro aérien, au métro Duplex. C'est la deuxième rue à droite dans la rue de Lourmel. Et ce restaurant a été tenu pendant très longtemps, jusqu'à ce soir, par Georges Well. Georges Well, c'est un personnage de roman. Vous devriez le rencontrer, il est absolument fabuleux. Il a démarré comme garçon boucher, il a joué au rugby au Stade Français, il a exploité plusieurs restaurants dans Paris, certains près du palais de justice. Il avait beaucoup d'amis dans la police et il est parti précipitamment, sans laisser d'adresse, mais on l'a toujours retrouvé. Et ce soir, il a cédé son affaire à deux jeunes garçons, un cuisinier qui a pendant 14 ans exercé au Père Claude, qui est une des meilleures rôtisseries de la capitale. C'est un copain de 35 ans, donc j'ai échappé au copain de 30 ans, donc de ce côté-là je suis carrément tranquille.
Pas de trahison, oui.
Donc le jeune cuisinier s'appelle Philippe, et il est associé avec un jeune garçon qui est basque, lui, et qui était également serveur chez le Père Claude. Donc, ils ont repris l'affaire, et à des prix défiant toute concurrence, selon la formule consacrée. Il y a un excellent menu, maintenant, on mange entrée plat ou plat dessert, un peu plus si on veut, il y a une carte très abondante, pour 21 euros, hors boisson. Il y a des vins, selon la soif, on fait très attention. Je n'ai pas voulu intervenir dans le débat, mais je me suis quand même payé 10 mois de retrait avec sursis pour une légère alcoolémie dépassée de 0,89. Et je me suis fait arrêter dans ma descente de parking, car j'avais klaxonné pour éviter un automobiliste qui me coupait la route. Donc, menottes, garde à vue de 14 heures, visite médicale, on n'est plus dans la gastronomie là, on est pour revenir à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Je me suis retrouvé aux urgences à Pompidou, 5 heures d'attente, dans un car conduit par un chauffeur, c'est mieux,
oui, bien entendu,
un chef de car et deux gardiens de la paix, dont une gardienne, et moi les menottes dans le dos. Et comme il y avait 5 heures d'attente à Pompidou, on s'est retrouvé à Cochin. Là, à Cochin, on a mariné 2 heures pour passer une visite médicale banale.
Et toujours avec les menottes ?
Ah, toujours avec les menottes.
Vous étiez rebellé à vous.
Pas du tout, absolument pas.
On vous colle les menottes pour un coup de klaxon ?
C'est tout ce que tout le monde dit, parce que j'ai une certaine légende qui me précède peut-être, mais alors là, je vous assure que silence radio le plus complet, j'ai simplement posé des questions aux braves gardiens pour savoir si c'était toujours le commissaire XYZ qui dirigeait le secteur. J'ai été libéré le lendemain, le commissaire m'a téléphoné en disant « Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» Je lui ai dit « Écoutez, monsieur le commissaire, parce que ça existe encore, je me suis simplement renseigné, savoir si vous étiez toujours le patron du 15e. Mais vous ne me connaissez pas. » Ben, je dis « Non, monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais rencontré. Par contre, j'ai des confrères qui vous connaissent très bien. » Vous pouvez le répéter, il a mis le haut-parleur. J'ai dit, je répète que je ne vous connais pas, monsieur. Je ne vous ai jamais vu. Je vous croise dans la rue. Je peux pas vous arrêter. Par contre, vous, éventuellement, vous m'avez fait arrêter pendant 14 heures. Les menottes ne m'ont pas quitté. Voilà. On va revenir à la chronique gastronomique. Il n'y a aucune raison, ça, je me sens mieux d'avoir... Puis j'ai payé une amende de 300 000 et quelques francs.
Quand même, oui,
et en avant, quoi, je suis passé au tribunal, j'ai été saqué très net. À aucun moment, on m'a demandé ma date de naissance, sauf qu'on s'en est aperçu sur les papiers. J'ai été traité comme le dernier des malfrats. Voilà. Donc, nous retournons au volant.
De le dire.
La soupe est bonne. La soupe est très bonne. Il y a beaucoup de cuisine à la plancha. Il y a également... des plats basques très bons, de la charcuterie basque qui vient directement du pays. Les prix sont raisonnables, l'accueil est chaleureux, c'est un véritable musée de l'automobile parce que tous les portraits de George Orwell avec les grands pilotes récents, Alain Prost, Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo et ses copains cosmonautes, parce qu'il était très ami, il est toujours avec Jean-Loup Chrétien. Donc allez-y de la part de Radio Courtoisie et vous aurez un très très bon accueil.
Alors, l'adresse, il faut la rappeler.
L'adresse, il faut la rappeler, c'est rue Béatrix Dussan, au numéro 13. C'est un porte-bonheur, le 13, à l'angle du 16 de la rue de Lourmel. Je vous donne le téléphone, 01 45 75 27 67. C'est fermé le lundi, donc ouvert le samedi et le dimanche.
C'est 45, très bien, 75. Vous avez été très vite, alors maintenant vous répétez.
Eh bien, pour vous, Victoria...
Le nom de...
Pour les auditeurs de Tokyo aussi, qui se demandent où est la rue de Lourmel.
Silence dans le rang.
Le volant. Le volant. Ça va, ouais. C'est pas trop rapide, Victoria. 13 rue Béatrix Dussan. Une des plus jeunes sociétaires de la Comédie française, parce qu'elle a intégré la Comédie française en 1903. Ce qui ne nous rajeunit pas. Dans le Paris, dans le 15e.
Je ne vous dirai pas de quelle était la maîtresse à l'époque.
Mais si, Marc, il faut nous le dire.
C'est dans le 15e ?
Oui, madame, Victoria. Le téléphone 0145 75 27 67.
Très bien.
Fermé le lundi.
Donc, quand on disait la visite chez le président du conseil, c'était chez Béatrix Dussan qu'on
avait. Et d'autres.
Elle a interprété Madame Sangène, donc elle devait être très à l'aise dans ce rôle.
Elle a été professeure au conservatoire, elle a enseigné Henri Tizot, entre autres. C'est pas elle qui lui a appris à imiter le général de Gaulle. Hein, mais...
Merci François Robot. Merci Marquis pour les précisions apportées sur Madame Dussan.
J'ai juste le temps de passer
deux petits. Oui, allez-y, parce que comme ça on
Monsieur va. Monsieur Bonnel semble confondre Actéon et Saint-Hubert. Jamais Saint-Hubert n'a été transformé en cerf.
Au Saint-Hubert du cerf, ça je le sais.
Monsieur Bonnel, Nicolas Bonnel, que pense-t-il de Castagneda?
Castagneda,
non.
Bidon, l'herbe du diable et la petite fumée.
Il n'y a rien dedans.
C'est un bidon intégral.
Total.
Pour moi, c'est un gardien de but, alors j'en pense encore moins.
Et un professeur.
Très bon d'ailleurs.
Et Jean-Claude Bonnal, dites-nous-en un mot. Vous êtes apparenté?
Non. Alors ça, c'est pas sympa, parce qu'on parlait de football, on pouvait parler de mon homonyme, Nicolas Bonnal.
Nicolas Bonnal.
J'ai même un homonyme qui s'occupe des écrivains à la 17e chambre correctionnelle.
Oui, exactement.
Et certains t'accusent de le faire écrire.
Qui m'a d'ailleurs.
Il y a des gens malades. malin quand même. Entendu, il y a des gens intelligents. C'est une merveille.
Témoin assisté.
Oui. Non, non. Alors, oui, comme témoin assisté. Oui.
17e chambre correctionnelle et le footballeur Nicolas Bonnel. Quant aux Chinois, non. Ben, oui, peut-être.
C'est pas un professeur désabusé vous dit que pouvons-nous y faire puisqu'on est conditionné. Même si on veut lutter, c'est peine perdue. La moindre réflexion à un élève, nous recevons la visite d'un parent et même du proviseur.
Moi, j'ai une bonne blague qu'on raconte à Monaco. C'est deux Russes qui se rencontrent. Alors, il y en a un qui dit, voilà, j'ai acheté un costume Armani à 3 000 $. Et l'autre lui dit, tu t'es fait avoir, moi, j'ai le même à 5 000.
Là, j'ai une histoire sur l'école, je la raconterai tout à l'heure.
Voilà, je crois mots. Qu'on est, on est au bout.
Vous avez juste le temps de mettre deux mots.
De passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie. Dans 2 heures, à 21h30 en direct, le Libre Journal de la Nuit dirigé par Paul-Marie Couteau et tout de suite, toujours en direct, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, Patrick Goffman, le Marquis, Jean-Pierre Rondeau et Philippe Robot. À vous. Et pardon, François. Oh, on se trompe toujours. À vous, Serge.
Et moi,
j'ai fait des coups de sonde.
Ah bon, vous faites des coups de sonde.
J'ai pris des initiatives.
Bah voilà, non, ça va pas.
Mais si, ça va.
Bon, allez, roulons jeunesse. Qu'est-ce que vous allez nous raconter, mon cher Patrick ?
Eh bien, je vais ouvertement faire la promotion du Libre Journal imprimé, puisque je me permets de vous le rappeler respectueusement, Serge, demain matin dès l'aube, hein, et pas à midi avec l'ironie en bandoulière. Il relève la tête, il lisait un fax, mais il relève la tête d'un seul coup. Nous allons préparer, donc, boucler, comme on dit dans notre jargon, le numéro 412 du Libre Journal.
C'est le seul endroit où on la boucle.
En effet. Alors, les auditeurs, et je crois qu'ils sont nombreux, même s'il y en a deux ou trois qui ont envoyé des messages un peu méchants, il y en a plusieurs centaines de mille qui ont apprécié le discours de notre ami Bonal, ils peuvent le retrouver sur deux pleines pages. Et là, c'est pas l'Amérique du Sud, c'est la Lozère. Et je crois qu'on peut quand même parler de grand reportage. Nicolas Bonal nous offre un grand reportage. Je viens de le lire comme correcteur, mais je l'ai lu comme lecteur aussi avec beaucoup de plaisir. Donc, grand reportage, silence dans les rangs. Grand reportage en Lozère. de notre ami Bonal. Nécrologie par notre divin marquis qui rapporte ses souvenirs du baron Guy de Rothschild qui vient de mourir à 92 ans. Et ça n'a rien à voir, bien entendu, avec les condoléances larmoyantes de Libération.
Ah bah forcément, c'est le beau-père de Libération. Moi, je l'ai connu parce que simplement, avant d'être un gros travailleur au Libre Journal, j'ai passé ma vie dans les courses de chevaux. Et j'ai connu l'époque où il n'y avait que des gentlemen, maintenant il n'y a que des voyous. Et parmi les gentlemen, il y avait le baron Guy de Rothschild.
Voilà.
Et j'étais donc très triste, même à son âge, d'apprendre sa disparition.
Voilà, donc je souligne que dans sa chronique mondaine, à ma connaissance, la dernière de la presse parisienne, le marquis exprime des sentiments, rapporte des souvenirs
humains,
et qu'il ne présente pas de condoléances serviles à un patron, comme certains de nos frères, je veux dire de nos confrères. Le Libre Journal publie dans chacun de ses numéros une chronique de François Brignot, le monument historique, comme je me permets de l'appeler, mais bon, il n'a pas écrit comme Jean Raspail pour se plaindre jusqu'à maintenant, donc je vais continuer à l'appeler notre monument historique. Un autre transfuge du Minute à 300 000 exemplaires de la Grande Époque, c'est Jérôme Brigadier, qui va de théâtre en opéra et en cinéma.
On vendait Alto Restaurant sous un pseudonyme transparent.
Voilà, oui, dans le genre, j'ai ça sous les yeux. Luc Ulus ou Oleg Hum, j'ai ça sous les yeux. Nous avons le Journal des Dames par Madame Michaud. Nous avons Merlin Chalva. Nous avons toutes sortes de collaborateurs qui sont prestigieux, qui sont de qualité, qui sont publiés régulièrement, parfois par de grands éditeurs. Donc je recommande l'abonnement à ce journal. Si je vous ai vendu, chers auditeurs, chères auditrices, ce numéro 412, vous pouvez l'avoir pour 5 € ou un carnet de timbres. Si vous voulez vous abonner pour un an, c'est 110 € à l'ordre de SDB 4 Place France List, 75 010 Paris. Si vous êtes encore sceptique, mais que vous avez Internet comme tout le monde maintenant, vous allez consulter des archives très complètes sur francecourtoise.info. Et si vous voulez, si vous en avez assez de notre ramage et que vous voulez voir notre plumage, je vous donne rendez-vous à vous auditeurs du sud-est, cette fois, il y a un mois, on donnait rendez-vous aux auditeurs du sud-est à Bordeaux.
Sud-ouest.
Oui. Oui, du sud-ouest à Bordeaux, ma langue a fourché, pardonnez-moi. Donc cette fois, c'est le sud-est qui peut nous rencontrer en chair et en os à Orange, le 8 juillet. Ça s'appelle « Lire sous les oliviers ». C'est organisé par la ville d'Orange et par Anne Brassier. À partir de 17h à Orange, colline Sainte-Eutrope. Et il y aura donc toute une pléiade en dehors de Serge de Bekech, de moi-même, Patrick Goffman.
C'est la première fois que j'ai la pléiade.
Toute une pléiade, je maintiens, d'auteurs qui dédicaceront, qui bavarderont avec vous. Serge de Bekech.
On peut lire d'Orange ?
Oui, on peut lire d'Orange. Serge de Bekech, puisque nous en parlons, lui prononcera entre le 14 et le 17 juillet une conférence intitulée « Heureux comme Dieu en France ».
Je vous rassure tout de suite, ça ne dure pas 3 jours.
Alors dites-nous plutôt quel jour au lieu de casser votre propre promo, Serge. Bon, en tout cas, Serge de Bekech est attendu à la 16e université d'été de Renaissance catholique.
17e chambre.
Moi aussi, j'ai cru qu'il allait dire ça.
Ça le changera, ouais, de la 17e. Le nationalisme est-il un péché ? C'est le thème général. Ça se passe à Grand Maison, à Villepreux, dans les Yvelines, près de Versailles. Et donc, pour toute information complémentaire, Renaissance catholique, en un seul mot, .org. J'ai dit, abonnez-vous, aidez le Libre Journal. Un dernier mot. Nous recevons des lettres de militants du Front National, candidats aux élections et néanmoins abonnés au Libre Journal, qui nous disent, Le Pen parle de louer 2 étages du paquebot à Saint-Cloud. Il a sans doute piqué l'idée au PCF qui va vendre le siège de l'Humanité et louer 2 étages également de son siège non moins somptueux et non moins ni meilleur, place du colonel.
Ni pire ni meilleur, oui. Mmh.
Et nous, qui n'avons candidat du Front, qui n'avons pas obtenu 5% à l'élection, nous allons devoir assumer la dette Notre dette, personnellement en grande partie, nous ne pouvons donc pas nous réabonner au Libre Journal. J'ai lu cette lettre dans le courrier avec beaucoup d'inquiétude et je crois qu'il y a plusieurs de nos amis du Front qui sont dans ce cas-là. Alors je dis aux auditeurs qui cherchent encore une raison de plus en dehors de l'intérêt qu'ils se trouveront dans ce Libre Journal pour s'y abonner, il faut nous aider à passer non pas l'hiver mais l'été, et il faut donc, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, si j'ose ainsi m'exprimer, sortez votre chéquier, écrivez 110 euros à l'ordre de SDB, 4 Place France Liste, 75 010,
Paris. Et il referme son petit parapluie, parce qu'il met les cravates, c'est dans le parapluie, toujours.
Oui.
Merci, Patrick.
Il s'en va corriger les épreuves du journal, on n'en parlera plus ce soir.
Eh ben, on vous regrette déjà.
C'est pas la peine qu'il vienne trop tôt, alors.
On a parlé de... Oui, François, vous partez aussi. Eh bien, bonne soirée à tous. Marquis, vous restez avec nous,
peut-être. Oui, oui.
C'est bien. Je voulais vous dire, la Grand Maison, vous connaissez le domaine de Grand Maison? Il faudra y aller. Le jour où vous marierez, il faut organiser votre mariage là-bas. Hein,
parce qu'on compte sur vous pour vous en occuper, y compris du mariage.
Oui, j'ai une petite...
Bon, alors, vous, là, il faut quand même que je vous tire les oreilles. Qu'est-ce que vous nous avez fait avec la présentation, le texte sacré?
Vous aviez invité un jour Monsieur de Lesquin.
Oui. Donc,
vous vous souvenez, il y a une question.
Ah oui, je me souviens, oui, effectivement.
Et on a reçu plusieurs messages d'auditeurs qui disaient « Oh, pendant que M. de Lesquin est là, demandez-lui donc s'il ne peut pas diminuer le nombre d'annonces réglementaires. »
Ah, vous prenez ça sur votre bonnet.
Mais non, mais je lui ai posé la question et il m'a dit « Je ne suis pas absolument sûr que ça plaise aux auditeurs, qu'on change quelque chose. »
C'était un test.
Ce que faisait M. Ferré. Par conséquent, ça permet aux auditeurs de juger sur pièce. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit essai.
Ben voilà, alors c'est pas plus... En tout cas, un auditeur qui est pas content, c'est Franck.
Ah oui, mais
pour les autres, je sais pas.
Changer. Ils sont tous casaniers dans cette maison.
Voilà.
Les
textes sacrés, nous, on est des tradis intégristes.
On conserve intégralement les textes, mais on les dit un tout petit peu moins souvent.
Oui, c'est ce que disait mon curé quand il vous balançait le credo en 3 secondes.
Oh là là.
Allez, vous ne serez pas pendus cette année, mais on envisage la chose pour l'année prochaine. Entrez, chers amis, n'attendez pas que je vous y invite.
Tiens, et pendant qu'ils entrent, est-ce que je peux dire qu'ils entrent, bah oui. Exposition de Robert Barillo, c'est un auditeur qui nous signale ça, qu'il y a une exposition de Robert Barillo à l'Orangerie du Sénat du 19 juillet au 5 août. C'est une exposition d'émaux sur cuivre repoussés, travaillés en relief, de dimension exceptionnelle, plus de 2 mètres de haut d'une seule pièce. Voilà, vous savez tout sur les dernières annonces, je n'en ai plus.
C'est bien, bah je m'en réjouis. Non pas que j'ai des plaisirs à vous entendre, mais enfin, il faut faire un peu de place aux autres. Est-ce que nous avons Franck et Madame Ostervik? Non? Ah ben non, c'est vrai, pardon, excusez-moi Jean-Pierre, vous redonne la parole. Donc, vous organisez quoi demain?
Je vous rappelle, le 5 juillet, donc 3 000 oranais étaient massacrés donc dans des conditions horribles, c'est-à-dire 3 jours après le 2 juillet qui était le jour de l'indépendance. Donc 3 000 oranais étaient massacrés de la plus horrible façon, hein, égorgés, éventrés, assassinés à coups de bâton, de couteau, de pistolet. Et pendant ce temps-là, donc l'armée française
sous les ordres du général Katz,
le fameux général Katz, qui s'est excusé lui-même en disant qu'il avait reçu l'ordre donc du président de la République de l'époque. Donc 3 000 Français. Les familles vivent encore aujourd'hui de façon très difficile. On parle beaucoup de faire son deuil. On parle beaucoup de rendre les corps de ceux qui ont disparu pour tous les incidents qui peuvent arriver, mais ces Français-là n'ont jamais récupéré et ne savent même pas comment sont exactement morts les leurs. Donc l'année dernière, je suis le président de l'association des anciens du lycée La Mauricière d'Oran, et donc depuis plusieurs années, je faisais une cérémonie dans un endroit de Paris. Et l'année dernière, j'avais obtenu donc du comité de la flamme de pouvoir donc déposer une gerbe au monument aux morts. au soldat inconnu. Et à ce moment-là, j'ai déclenché pendant un mois une campagne contre moi, contre l'association, qui provenait d'abord de la LDH de Toulon, mais ensuite de divers mouvements gauchistes, des porteurs de valises, du Parti communiste, de l'Humanité, puis de quelques journaux algériens. Et à la demande donc de Monsieur Mekachira, qui était censé nous...
C'est un peu comme si les anciens collabos et les anciens nazis essayaient d'interdire une manifestation au mémorial juif.
Absolument. On est la seule communauté à qui on peut interdire ça, d'ailleurs.
Ouais.
Et donc, l'année dernière, Monsieur Mekachira avait demandé au préfet d'interdire. Monsieur Mekachira était sous les ordres d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Et donc, le matin même du 5 juillet, je me suis vu interdire donc cette cérémonie. Et comme on n'avait pas nous-mêmes informé nos adhérents et tous les amis qui voulaient venir, ce sont de vrais bataillons de CRS qui nous ont interdit l'approche. Cette année, la protestation a été beaucoup moins virulente. Et donc, a priori, demain à 18h30, nous ravivons la flamme. Alors, j'invite donc tous les auditeurs de la région parisienne à nous rejoindre. C'est vraiment un moment important. Et surtout que je veux rappeler que ce sont 3000 Français qui sont disparus ce jour-là, et nous avons besoin de votre présence. Voilà.
Donc
à partir de 17h45, nous souhaitons le plus grand rassemblement possible.
Place de l'Étoile.
Place de l'Étoile.
Et non pas place de l'autre.
Et non pas place de l'autre, qui est une cérémonie dissidente.
Okay. Merci, Jean-Pierre. Eh bien, je crois que nous avons au téléphone Marie-Claire Osterweck.
Oui.
Alors,
oui.
Je coiffe.
Je suis là.
Madame Osterweck, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur de Becquet.
Alors, les auditeurs se souviennent sans doute que je vous ai reçu à ce micro il y a quelques semaines.
Oui, le 28 mars.
Voilà, le 28 mars. Et on avait été, comme toujours, j'ai été surpris par le temps, pas par le mauvais temps, mais par le temps qui passe, pour vous interroger sur vos travaux relativement à l'usage du carbone 14 dans l'étude du linceul de Turin. Vous avez écrit d'ailleurs sur ce sujet un livre qui est intitulé Le radiocarbone face au linceul de Turin, journal d'une recherche, qui est paru aux éditions François-Xavier de Guibert, qui est un livre de 350 pages qui vaut 30 euros. Et puis, François-Xavier de Guibert a publié également, entre autres, un livre de Didier Huguet et Wilfried Wermeling consacré à la Sainte Tunique d'Argenteuil face à la science. Les actes du colloque du 12 novembre 2005 à Argenteuil, organisé par Costa, qui est une branche de l'UNEC.
Oui.
Donc, je voudrais qu'on revienne à notre conversation et qu'on prenne la suite de cet entretien qu'on avait eu au mois de mars. On a été resté aux sources d'erreurs qui affectent les âges dans la méthode du radiocarbone, et notamment tout ce qui concerne les contaminations.
Voilà.
Alors, vous avez intitulé l'expertise de la Sainte Tunique « La datation radiocarbone la plus intéressante du point de vue scientifique ». C'est un peu paradoxal, parce que vous en discutez le bien fondé, cette datation. Alors, en quoi est-elle intéressante et en quoi est-elle plus intéressante que d'autres?
C'est parce que dans mon livre, j'avais montré les défaillances des méthodes de nettoyage. Et je n'avais pas vraiment d'exemple concret. Et voilà que pour la Sainte Tunique, ça devient beaucoup plus clair, étant donné que le nettoyage de la Sainte Tunique, c'est de la laine, a dissous 60% de l'échantillon. Alors, on se demande vraiment, ce nettoyage, paraît-il, sert à enlever le carbone moderne. Mais comment savent-ils que c'est distinguer le carbone moderne du carbone ancien? Mystère.
Oui. Ce qui est frappant, en tout cas, dans ce que vous démontrez dans votre livre, c'est que, plus exactement, ce qui s'est manifesté à la publication de votre livre, c'est un grand inconfort.
Oui.
Pour les adeptes de la datation.
Oui.
Comment expliquez-vous cet inconfort et même ce dérangement général des esprits?
Comment je l'explique? C'est que j'ai dérangé le confort intellectuel de tout le monde. Il se fait que, par ma spécialité, je m'étais aperçue que le radiocarbone n'était pas du tout une méthode fiable. Il était influencé par la température, par des solutions. Donc, ce n'était pas une méthode absolue. Et je m'y suis exprimée dans mon ouvrage « Escalité ». En me référant à des découvertes récentes, inconnues du temps de Libye. Parce qu'il y a eu une véritable révolution en science dans les années 60, que Libye ignore et que la plupart des défenseurs du linceul, qui sont de très très vieux monsieur, ignorent aussi, n'ont pas envie d'ailleurs de connaître. C'est pourquoi mes thèses n'ont été comprises que par les vrais scientifiques.
Et en même temps, il y a un autre aspect quand même qui a certainement joué dans la réaction hostile, c'est le fait que il s'est produit un événement finalement assez rare, c'est que vous avez un peu ridiculisé, il faut bien le dire, le gang,
oui,
des zététiciens.
Non, écoutez, moi je
involontairement peut-être, mais enfin le résultat est là.
C'est-à-dire que je me suis aperçue que il n'y a aucune preuve de l'inauthenticité du linceul, sauf le radiocarbone. Et parce que toutes les autres preuves sont pour l'authenticité.
C'est déjà ce qu'avait démontré, c'est déjà le travail qu'avait fait Upinski, oui. Avec le livre Le Linceul, La science à l'épreuve du linceul.
Oui.
Où il disait en fait, toutes les preuves sont réunies de l'authenticité du linceul, ce qui fait que quand toutes les preuves sont réussies de l'authenticité de quelque chose et qu'il y a une seule preuve qui va contre, il faut quand même bien en conclure que cette preuve, elle n'est pas validable immédiatement. Elle mérite d'être...
Voilà.
Et alors ça, ça avait beaucoup déplu à Broche.
Tandis que moi, si vous voulez, je continue et je montre pourquoi la méthode n'est pas fiable. Quant au professeur Henri Broch, il trouve que la date médiévale est irréfutable. Il écrit cette date irréfutable que les partisans de l'authenticité...
Comme l'éléphant d'ailleurs. Vous savez que l'éléphant est irréfutable, disait notre ami Vialat.
Eh bien oui, c'est la même chose.
C'est ça, oui.
que les partisans de l'authenticité sont incapables de démentir, les fait grincer des dents.
Oui. Mais pour l'instant, c'est surtout les partisans de la fausseté qui grincent des dents. Hein.
Mais je crois que pour l'instant, ils commencent à être mal à l'aise. Voilà. Et je crois que mon livre donc a dérangé le confort intellectuel, la croyance au progrès, celle de notre ascendance simiesque. Et ce qui est impardonnable, j'ai réhabilité la crédibilité des reliques du Christ.
Ouais, alors, ce qui est curieux aussi, et vraiment inattendu et paradoxal, c'est que vous avez obtenu ce résultat en suscitant l'hostilité d'une grande partie du clergé.
Ah oui.
C'est les adversaires les plus résolus de l'authenticité, par correctness, comme on dit maintenant, ou comme on ne dit pas.
Mais je ne sais pas. Il est certain que j'ai découvert que les ecclésiastiques n'ont pas de formation scientifique pointue comme moi. Alors, au fond, ils connaissent le radiocarbone à travers les ouvrages de vulgarisation et ils ont une sorte de malin plaisir à découvrir que les reliques sont fausses grâce au radiocarbone.
Oui, c'est une espèce de snobisme, ça, qui consiste à dire, mais moi j'ai la foi, je n'ai pas besoin de ça pour avoir la foi. Hein.
Oui, c'est que
les crétins qui ont besoin de...
Oui, c'est ça. Oui, j'ai entendu ça plusieurs fois. Oui. Je me tuais à leur démontrer que l'âge était faux du point de vue scientifique. Ça les intéresse pas. D'abord, ils devraient faire un effort intellectuel. Enfin, c'est comme ça. Ça a été comme ça. Le verdict de la science, l'évêque du Val d'Oise s'est incliné devant le verdict de la science.
Il s'incline à peu près devant n'importe quoi, donc c'est pas très très étonnant, sauf devant naturellement les saints trolliques. Parce que ça, les saints trolliques, c'est de la superstition.
Ça les dérange
beaucoup. Alors, en revanche, ce qui les dérange pas du tout, apparemment, c'est quand on passe au carbone 14 une coquille d'escargot qu'on a ramassée dans son jardin et qu'on établit qu'elle a 26 000 ans, ou que, encore mieux, je me souviens, quand on avait publié le premier numéro du Libre Journal, on avait publié un article qui montrait que des bois de serre avaient été découverts dont la datation au carbone 14 donnait 20 000 ans après Jésus-Christ.
Oui.
C'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à les voir pousser dans 18 000 ans.
Oui, mais écoutez, vous n'imaginez pas le nombre d'âges dans l'avenir qui existent, des centaines, des milliers. Je l'ai dit un jour à Monsieur Salet au téléphone, c'est la seule fois où il a voulu m'adresser la parole, il a été offusqué et il a raccroché le téléphone en disant « ce n'est pas possible, Monsieur, le docteur Evin me l'aurait dit ». Mais oui, il ferait mieux.
Je crois que le docteur Evin ne lui dit pas tout, c'est bravo.
Je crois qu'il ne lui dit pas tout, non. Ouais. Mais il y en a des quantités, des milliers, des centaines, des milliers. Votre bois de serre n'est pas unique, voilà. Ça ne dérange d'ailleurs pas du tout les radiocarbonistes, ils mettent les âges au placard et puis continuent.
Mais pourquoi, finalement, en dehors des des considérations mandarinesques, qu'est-ce qui fait que de douter de l'authenticité, ou plutôt de l'inauthenticité, ou de douter de la validité du radiocarbone dans l'analyse, l'examen du Saint-Suaire, c'est devenu une espèce de crime. Il y a une espèce de de loi de la science, il y a une inquisition scientifique.
Tant que j'étais dans la carrière, je me rendais pas compte. C'est quand j'ai vu cette levée de bouclier de la part de tous les scientifiques radiocarbone contre le Saint-Suaire que je me suis dit il y a un complot, c'est certain. Mais je vais vous dire aussi que l'histoire, les écritures vont à l'envers de ce qu'on dit dans l'évolution du vivant. Or, l'évolution du vivant est fondée également sur les datations radiocarbone, toutes les datations absolues. Alors, si jamais ce sont les reliques du Christ qui sont véritables, mais c'est toute la science moderne qui s'écroule.
C'est vrai. Les moyens de défense sont parfois un peu ridicules, parce que on nous dit, par exemple, je me souviens que ça avait été proclamé au moment de la publication des résultats de la datation au carbone 14, on avait dit les résultats sont valables à 95% de probabilité.
C'est là la chose qui déroute tout le monde. Ouais. Ça fait sérieux.
Alors la Sainte Tunique, c'est encore mieux que ça, c'est 95,4%.
Oui. Et là, il n'y a personne qui comprend, et tout le monde est en béat d'admiration. Et je vais vous dire que c'est très simple. Les radiocarbonistes, avec leurs appareils AMS, parce qu'ils n'ont voulu utiliser que cela pour le linceul et puis pour les autres reliques du Christ, ces appareils AMS ont une réponse en forme de courbe de Gauss, une sorte de chapeau, de chapeau de gendarme. Et d'après les lois de la statistique, on peut doser à 95% en faisant des calculs, on pousse sur un bouton, on a cette courbe de Gauss et on a le chiffre à 95%. Voilà.
Ou 95,4%, ou 95,4276%.
Oui, non, mais c'est parce que leurs appareils sont devenus un peu plus précis. Oui.
Ça dépend de l'épaisseur du trait, peut-être, dessiné par le stylographe.
Est devenu plus aigu.
Oui.
Alors, voilà. Donc, c'est tout. Donc, ces gens font une seule mesure, mais tandis que pour le linceul de Turin, ils ont jeté la poudre aux yeux. D'abord, personne n'y comprend rien. Ils ont fait plusieurs mesures par plusieurs laboratoires. Et il y a eu une
moyenne statistique, non?
C'est-à-dire que, d'abord, comme vous le savez, la publication de Nature est signée de 21 auteurs, où aucun ne figure ex qualité. les professeurs sont mélangés aux techniciens. Et finalement, en grattant, on s'aperçoit que la seule personne qui a travaillé dans cette publication, c'est Madame Lees du British Museum, la statisticienne. Mmh. Et que elle-même, elle a fait un calcul tellement compliqué que bon, ça vous fait dresser les cheveux sur la tête. Moi, ça m'avait troublé.
Mais au fond, si imaginez que vous dites l'âge du sanctuaire, c'est 33 après oui. Jésus-Christ. Bon, oui. Et vous avez une dame qui vient et qui vous dit non, d'après moi, l'âge du sanctuaire, c'est 1833 après Jésus-Christ, donc vous tombez d'accord sur le fait que l'âge du sanctuaire, c'est en gros 900 après Jésus-Christ. Quoi. C'est la moyenne, quoi. Hein? On peut dire ça, non? C'est ça le calcul statistique?
Non, pas tout à fait.
Pas tout à fait, quand même.
Il y a d'Israëli qui a dit que c'était façon la plus habile de mentir.
Ouais, il a dit, je crois, il y a le foutu mensonge, le damné mensonge et la statistique.
Oui, c'est ça. Eh bien, c'est vraiment ça. Je dois aussi vous dire que je suis une vieille routière de la science, et quand les choses ne vont pas, ben on fait un calcul statistique. On arrive toujours à ranger les chiffres quand il faut. Et ça m'avait semblé bizarre. Pourquoi ce calcul statistique?
Oui, c'est ça. Pourquoi le recours à la statistique? Oui. Parce que ça, c'est une espèce de dieu vivant, la statistique,
mais non,
maintenant.
Mais non. Alors, les statisticiens sont penchés sur ce calcul et ils ont trouvé qu'il était aberrant. Alors, je vous dis, j'ai eu le grand plaisir de voir cette opinion confirmée par l'Académie des sciences, par le docteur Pierre Perrier. Donc, c'est vrai, tous les statisticiens qui sont penchés là-dessus ont dit, elle est folle, cette personne, c'est un crime contre l'esprit, a dit un de mes collègues. Ce qu'il y a, c'est que Mrs. Lees, quand on lui a posé des objections, elle a été tout à fait d'accord. Elle dit oui, je me suis trompée. Oui, mais ça ne fait rien. Vous savez, moi, maintenant, je ne peux pas continuer parce que je suis en dépression nerveuse.
Mais c'est quoi? On se voit sur 16, elle s'est trompée, je crois, hein, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'elle a fait oui. Elle
statistiquement, c'est quand même beaucoup, 11 sur 16.
Ah, non, ça c'est autre chose.
Ah, c'est autre chose, les datations fautives.
Attendez, je continue cette histoire de Mrs. Lees. On s'est tourné contre le docteur Tite.
Ouais.
Et le docteur Tite a dit, oui, mais vous savez, moi je ne suis pas spécialiste en radiocarbone et je ne connais rien à la statistique. Alors...
Non, de quoi il se mêle?
C'est la bonne question est celle-ci. Pourquoi, par qui a-t-il été nommé? C'est ça qui était extraordinaire. Non, ici, les choses qui impressionnaient les gens, c'était dire, voilà, ça a été déterminé à 95% de probabilité, et de plus, ça a été soumis à des nettoyages extrêmement pointus qui ont enlevé les taux de radiocarbone modernes, d'où l'intérêt de la tunique d'Argenteuil, et de telle sorte qu'il est certain qu'on a trouvé le bon âge, puisque vous voyez bien que les âges des témoins, Carcibrim, Saint-Louis d'Anjou, Cléopâtre de Thèbes, ont donné les âges historiques.
Oui.
Mais seulement, on ne dit pas que Tite avait exigé qu'on communique
les âges en question
d'avance.
C'est-à-dire qu'il savait ce qu'il cherchait.
Et il savait ce qu'il cherchait. Et
c'est plus facile pour trouver, évidemment.
Ça devient plus facile.
Oui.
Et ils avaient fait une expérience préliminaire en aveugle, signé Burley, Lees et Tite. Mm-hmm. Je dois vous dire que Burley était à ce moment-là le chef de laboratoire du radiocarbone.
Oui, il pouvait quand même difficilement contester la validité de son outil de travail principal.
Oui, mais attention, il a été honnête. Il ne signe pas il ne fait pas partie des 21 auteurs.
Intéressant, ça.
Oui, c'est intéressant. Bon.
Alors, pour en revenir à la sainte tunique dont on parlait,
oui.
Vous prêchez, si j'ose dire, en faveur de son authenticité. C'est-à-dire que vous contestez la datation au carbone 14.
Oui.
Qui la fixe de 530-650
oui.
Après le Christ.
Oui, Oui.
Mais pour quelle raison, qu'est-ce que vous avez comme argument critique contre ces datations?
Mais voilà, en quoi elle m'a intéressée particulièrement. Donc, je devrais peut-être terminer en disant que que l'expertise préliminaire de Burley, Lees et Tite avait en aveugle donné 11 résultats faux sur 16. Donc, Tite n'avait pas voulu de recommencer des tests aveugles. Alors, ici, Evelyne Cottreau, elle connaît la tunique. Elle sait l'âge auquel on pourrait éventuellement la dater, pour qu'elle a été qu'elle a été fabriquée un petit peu avant 800, puisque la tunique est arrivée en l'an 800 à Argenteuil. Hein?
Mm-hmm.
Bon, elle le sait. Alors l'idée a été, j'ai travaillé en collaboration avec le professeur Lucotte. Il n'en dit rien dans son livre et en réalité il interprète le résultat d'une autre façon, mais je pense que finalement c'est moi qui suis physico-chimiste et pas lui, et que je suis, c'est une bonne, non mais il est très bon dans son domaine, mais dans le mien je pense que je suis plus calée. D'autant plus que je suivais mon idée. Donc, l'idée était celle-ci. Les gens qui avaient travaillé en aveugle n'avaient pas trouvé les bonnes dates. Faites faire une expérience en aveugle qui a été faite à l'ETH de Zurich par Archéolab, l'a confiée à l'ETH de Zurich. Et voilà que les âges sont devenus beaucoup plus récents. C'est le même appareil qui date aussi à 95,4% de probabilité.
Ouais.
C'est le même nettoyage. Et l'âge est devenu de 880. Attendez, j'ai passé de 670 à 880 au lieu de 530, 650.
Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même 3 siècles de différence.
Oui, c'est ennuyeux.
Oui, c'est embêtant.
Ouais. Oui, mais on a interrogé les spécialistes, Evelyne Cottreau et Christian Dormois, qui ont trouvé qu'il n'y avait rien d'aberrant. Tout dépend de la façon dont on calcule la marge d'erreur. Ici, la question est de savoir si Christian Dormois avait connu ce qu'était la tunique. Parce qu'on lui a donné un morceau de tissu en aveugle, hein, ben, je parie qu'il aurait trouvé le même âge qu'Evelyne Cottreau.
C'est ça. Donc, mais alors, est-ce que vous pouvez en conclure que cette entente générale est liée à une volonté malfaisante, ou est-ce que c'est purement accidentel, ou c'est...
D'abord, il y a une chose... Il faut bien le dire, je crois qu'ils vont me détester, mais ils vivent de ça, hein. Ils vendent leurs analyses, ils les vendent très cher. Ces appareils sont très chers. Alors, tout leur prestige, remarquez que ces datations radiocarbone sont très intéressantes dans un autre contexte, ce qu'on devrait voir d'une façon plus scientifique, je dirais. Mais au stade primaire où en est l'humanité actuelle, c'est tellement merveilleux de dire, voilà, je tape sur un bouton et je trouve l'âge du linceul de Turin, oui. Il est médiéval. Je tape sur un autre bouton et je tombe sur l'âge de l'homme de Néandertal, il a 40 000 ans. Vous voyez bien, alors qu'il y a actuellement des dates pour l'âge de Néandertal, radiocarbone extrêmement jeune, mais on n'en parle pas non plus. Bon. C'est tout le prestige de la science qui s'effondre.
Et c'est même un peu plus que ça, parce que finalement, le travail que vous faites revient à suggérer une manipulation. C'est-à-dire que on a dosé du carbone 14, ça c'est une affaire entendue, mais on n'a pas assorti ça, contrairement à tout ce qui a été répété, d'une mesure du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas échelonné, en quelque sorte, le dosage à l'aide du temps.
Mais c'est-à-dire que ce qui est intéressant, ils ne peuvent pas le faire. C'est, comme disent les Américains, c'est un raisonnement circulaire.
Oui, c'est ça.
Mais voilà, c'est ça. Vraiment, sans le savoir, j'ai atteint au cœur ces méthodes de datation. Voilà, ce qui était intéressant, pourquoi elle était la plus intéressante, c'était justement parce qu'ils avaient pu, ils avaient dit pour la première fois combien d'échantillons avaient été dissous. 60% de l'échantillon avait été dissous.
C'est quand même énorme, ça.
Pour moi, c'était énorme. Et le traitement était un traitement acide-base-acide, c'est-à-dire que l'acide servait à dissoudre la calcite, qui était supposée moderne, et les alcalis étaient supposés dissoudre les contaminations carbonées. Mais malheureusement, comment est-ce qu'ils y ont pas pensé? La laine est un dérivé carboné.
Oui, bien sûr.
Alors
oui.
Je me suis dit, mais, et s'ils l'avaient dissoute, la laine? Et monsieur...
Ben, c'est ce que vous faites remarquer, d'ailleurs.
Oui, oui. Alors, grâce au travail de monsieur Lucotte, on voit très bien, d'abord une chose qu'on ne savait pas, que cette tunique est couverte de grands cristaux de calcite.
Oui.
Ils sont grands. S'ils avaient été plus petits, ils auraient été dissous plus rapidement. Et après le traitement AAA, le traitement de purification pour enlever le dicarbone moderne, une partie de la calcite est restée, qui est du carbone moderne. En revanche, une partie de l'échantillon ancien, c'est-à-dire la laine, s'est dissous.
Oui.
Oui.
Alors, donc ça a eu un effet complètement contraire. C'est-à-dire, oui, effectivement, ça conduit à une datation moderne.
Mais on ne sait pas qu'on a daté.
Oui, voilà.
Vous voyez, mais ce qu'il y a de très bien, et ça j'avais vu parce que j'avais discuté déjà avec des radiocarbonistes, j'avais vu que c'était un tabou. Ils ne voulaient pas qu'on touche qu'on fasse cette expérience qui a été faite par M. Lucotte, vous voyez.
Et d'ailleurs, vous dites que le professeur Grove, avait empêché déjà le STURP de procéder à l'analyse chimique.
Oui, et personne n'a compris pourquoi. Ouais. Et alors, les Italiens sont quand même des gens très malins. Ils ont enlevé quelques petits fils de la retaille qui allait être datée et l'ont passé aux gens du STURP. Qui ont pu l'analyser.
Furbi.
Et alors, on s'est aperçu, mais on a su que plus tard, que en réalité, la zone étudiée contenait de l'or et de l'argent fondu. Or, ça veut dire que la température a atteint au moins 1000 degrés.
Ouais.
Donc, il est très probable, puisque ça, on avait déjà remarqué que le radiocarbone avec la température, eh bien qu'il s'est altéré dans cette zone-là et que, comme tout le linceul a été attaqué à ce moment-là, comme l'a dit très bien Libby, il ne fallait pas le dater. Il l'avait dit.
Oui.
Et alors Gove, qui savait très bien tout ça, parce qu'ils avaient fait des expériences à Tucson, mais ils n'avaient rien dit, avait bien recommandé qu'on ne prélève pas l'échantillon dans les parties brûlées. Ce qui est dommage qu'on n'ait pas fait quand Madame Fleury-Lemberg a recousu son linceul, l'a réfectionné. C'était le moment ou jamais de voir faire une analyse radiocarbone.
Mais ce Gove a quand même... il est étrange, ce personnage, parce que quand il est pris en flagrant délit, parce que pratiquement il est pris en flagrant délit de raconter n'importe quoi, alors à ce moment-là, il éclate de rire et il dit écoutez, de toute façon, ça sert à rien le travail qu'on fait, alors qu'il a passé son temps à s'occuper de ça.
Oui.
Parce que de toute façon, le linceul est indatable.
Oui, hein? Oui.
Alors autrement dit, quand on arrive au bout de tous les moyens qui ont été mis en œuvre pour prouver l'inauthenticité, et qu'on n'y parvient pas, on dit on ne peut pas trouver la date.
Mais voilà, c'est le seul cas où on ne peut pas trouver la date. Vous comprenez bien, toutes les autres restent bonnes.
Bien sûr.
Et y compris vos coquilles d'escargot et tout.
Oui.
Voilà.
Quelle conclusion vous tirez de tout ça? Alors, sur le plan scientifique, sur le plan spirituel?
Écoutez, comme je crois que je vous ai dit la fois dernière, moi, ce qui me passionne, ce sont les relations entre science et foi. Mmh. Et de voir que la véritable science, finalement, confirme la tradition, me rassure beaucoup.
Oui, c'est un peu le cas, je crois, de la plupart de ceux qui sont intéressés sincèrement à cette question, sans arrière-pensée négative, je dirais. Voilà. C'est que on n'a évidemment pas besoin de ça pour croire, mais c'est aussi bien que ça existe.
Mais il faut dire que cette image, les autres reliques sont aussi très intéressantes, et on a trouvé toutes sortes de preuves de l'authenticité du sang, toujours le même sang, oui. Vous savez tout ça.
Ça, c'est tout à fait fascinant, d'ailleurs, le recoupement entre la tunique, le linceul,
mais oui.
Le sudarion.
Oui. Comment voulez-vous qu'un faussaire, toujours à une date différente, et eu cette idée d'aller mettre exactement le sang, un groupe sanguin extrêmement rare, aller mettre des pollens de Palestine, il faut quand même être sourdoué.
Oui, c'est assez, effectivement, il faudrait une famille entière qui consacre tout son temps à ça, génération après génération.
Ces choses-là, on ne connaissait pas.
Peut-être demander à l'auteur du Da Vinci Code de nous imaginer quelque chose autour de ça.
Oui. Enfin, je vous dirais en conclusion que la valeur de la méthode radiocarbone comme mesure du temps a été surévaluée. Parce que je prétends qu'elle a une autre valeur, cette méthode, mais enfin, je suis à la retraite. Que les âges radiocarbones, les trois linges de la passion, sont faux. Tant ceux mesurés à GIF qu'à l'ETH pour la Sainte Unique, et qui n'ont aucune signification chronologique. Il n'y a donc aucune raison de dire que la Sainte Unique n'est pas celle du Christ.
Ben, ça me paraît une conclusion pour l'instant très très importante.
Oui.
Et je vous remercie d'avoir bien voulu nous répondre. Je rappelle que vous avez écrit un livre, Le radiocarbone face au linceul de Turin,
oui.
Qui est paru chez oui. François-Xavier de Guibert,
oui.
Et dont on peut augmenter l'intérêt ou la lecture en tout cas en lisant le livre de Didier Huguet et notre ami Winfried Wermeling, La Sainte Tunique d'Argenteuil face à la science, sont les actes du colloque du 12 novembre 2005 à Argenteuil que Winfried avait organisé. Et puis je vous remercie donc encore une fois d'avoir bien voulu répondre par téléphone, et je vous propose de nous donner la suite de vos travaux, si de nouvelles découvertes sont faites.
J'attendais, je vais quand même vous dire une suite positive. J'attendais une réaction des radiocarbonistes, et il n'y en a eu aucune. Ils ont une petite revue qui s'appelle Connaître, qui devait recenser mon livre. Mon livre est paru en 99 et n'ont pas eu le temps de le faire.
Ah bah vous savez, ils ont beaucoup de travail.
Mais c'est ce qu'ils m'ont dit.
Oui, c'est ça. Enfin, là, quand même, 8 ans, ça commence à faire beaucoup. Oui. Il faudra dater leurs articles au carbone 14 si ça continue.
Oui, mais voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas beaucoup de temps. Vous le comprenez.
Oui, je comprends très bien, effectivement. Bon. Merci beaucoup.
Au revoir.
Et à bientôt, j'espère. Au revoir, madame. Alors, un auditeur nous dit à propos du suaire, j'ai une documentation, la coulée du sang examinée montre à l'examen l'effigie de Louis XVI. Ça, c'est vrai, on a vu des photos, mais bon, je crois que ça, ce genre d'argument, c'est un argument qui fait plus de dégâts qu'il ne fait de bien. Parce que, bon, il faut quand même tenir compte du hasard. D'abord, l'effigie de Louis XVI, bon, on sait en gros quelle tête il avait, mais un profil dessiné avec une tache de sang, c'est approximatif. Et puis, en fait, on sait très bien le rôle de la gestalt, c'est-à-dire de la projection d'image. On projette sur une image ce qu'on a envie d'y voir. Alors, je dis pas que c'est le cas, mais je préfère, sur ce sujet, en rester à des considérations plus pratiques. En tout cas, si on s'intéresse à ces questions...
La radio est penchée, là.
Oui. Ah, oui, depuis un moment, vous pouvez parler, monsieur.
Ce que je voulais dire, c'est que ce que dit cette dame est très intéressant, mais il y a deux choses dont elle n'a pas parlé et qui vont dans son sens. C'est que il a été établi que l'essentiel des échantillons qui ont été examinés au carbone 14 ont été prélevés sur les bordures. Mmh. Or, une bonne partie de ces bordures ont été, après des destructions accidentelles, ont été recousues. Ouais, à l'époque médiévale.
Par les sœurs.
Donc, si, oui, par des sœurs. Donc, si on étudie des morceaux d'un tissu qui sont des pièces rajoutées et qui ne sont pas du tout de l'âge du tissu d'origine, évidemment,
oui, évidemment
il y a
on peut pas.
Et il y a une deuxième chose dont elle n'a pas parlé, mais peut-être que c'est dans le livre, je ne sais pas, je parle de ce que je viens d'entendre. Mm-hmm. Il y a des gens qui ont fait des superpositions graphiques entre les taches de sang du linceul et de la tunique, sur les parties qui concordent, bien entendu. Et elles se superposent d'une façon assez proche.
C'est proche, oui. C'est ce que Wilfried Merlening nous avait fait remarquer déjà. Mais effectivement, je crois qu'il n'y a plus de preuves de l'authenticité que de preuves de l'inauthenticité. Ça, c'est indiscutable.
Oui, il y a un cumul d'éléments parfaitement scientifique et parfaitement indiscutable, qui est tel que ce sont les gens qui cherchent à démontrer le contraire qui doivent faire la preuve. Mais l'ensemble et la variété des éléments d'information sur l'authenticité sont considérables.
Merci. Alors, si vous venez d'entendre Monsieur Marc Chandrier, qui est donc spécialiste des questions de radio, de magnétisme, d'électromagnétisme, et qui est chargé de ces questions dans le cadre de l'association Robin des Toits, dont on parlera tout à l'heure, enfin dont on va parler tout de suite d'ailleurs. Je souligne quand même l'existence d'un autre livre, L'ascendance davidique des rois de France par le marquis de la Franquerie, qui est un grand classique, qui est paru aux éditions Saint-Rémy. Boîte postale 80 33 410 à Cadillac. Et qu'on peut lire avec beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement, le marquis de la Franquerie était en relation avec Marie-Julie Jaigny, sauf erreur de ma part, dont on dit que... c'est ça, non ?
Il n'y a pas d'erreur.
Il n'y a pas d'erreur. Hein. Donc on dit que Marie-Julie Jaigny lui avait dit « Vous verrez de votre vivant le roi ». Et alors, ça a troublé beaucoup de gens, parce que les prophéties de Julie Jaigny ou les propos de Marie-Julie Jaigny ont été surabondamment prouvés ou accomplis, et apparemment pas celui-là, mais rien ne dit que le marquis de la Franquerie, qui est mort il y a quelques années maintenant, n'a pas croisé un petit bébé dans son berceau qui était le futur roi de France. Donc c'est comme toujours avec les prophéties, on ne s'aperçoit de leur authenticité que quand elles se réalisent. Voilà, alors on change complètement de sujet. Encore qu'on va rester dans le domaine de la science contestataire, je dirais. Avec Marc Chandrier, donc responsable de l'information scientifique de l'Association nationale Robin des Toits, et avec lequel nous allons évoquer la question des effets de l'électromagnétisme sur le vivant. Alors, c'est un sujet qui intéresse beaucoup d'auditeurs. Quand j'ai annoncé votre présence, j'ai eu plusieurs messages de personnes disant « J'espère que vous allez parler de ces véritables tentatives d'assassinat, de crimes qui sont perpétrés ou d'empoisonnement électromagnétique qui sont perpétrés par ces appareils, par ces équipements ou par ces méthodes. » Effectivement, on va en parler parce que j'ai remarqué que c'est quand même quelque chose qui revient constamment. On rencontre des gens qui disent « mais je suis victime du rayonnement électromagnétique parce que j'ai une antenne dans mon coin, parce que j'ai un transformateur à proximité de chez moi ». Et détail, je ne sais pas si vous connaissez ce détail que je trouve pittoresque au moins, on dit que Madame Mitterrand a fait équiper son lit d'un blindage, enfin la partie de la chambre où se trouve son lit, d'un blindage destiné à éviter les rayonnements ou à la protéger des rayonnements électromagnétiques. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai entendu dire ça plusieurs fois. Et pourtant, Madame Mitterrand n'est pas ce qu'on pourrait appeler le prototype de la rêveuse spiritualiste. Hein, bon. Alors. D'abord, qu'est-ce que c'est, Marc Chandrier, qu'un effet électromagnétique ? Ou l'électromagnétisme, qu'est-ce que c'est ?
Alors, je dois rappeler que l'objet dont s'occupe avec précision l'Association nationale Robin des Toits, c'est un morceau seulement de l'électromagnétisme, ou plus exactement du bioélectromagnétisme, et que ce dont nous nous occupons essentiellement, c'est la téléphonie mobile. Mais évidemment, c'est situé dans l'ensemble d'une branche scientifique qui s'appelle le bioélectromagnétisme, qui est né dans la troisième décennie du XXe siècle et qui s'est beaucoup développé. Et la téléphonie mobile est donc un cas particulier, et la raison pour laquelle nous nous y intéressons, c'est à cause de ses répercussions, parce que nous avons constaté, sous toutes sortes de formes, qu'elle comporte des effets qui sont tout à fait, qui sont graves sur la santé de la population.
Quand vous dites, nous avons constaté, vous avez fait des expériences de caractère scientifique.
Je vais vous donner quelques précisions. Donc, ce dont je suis en mesure de parler, parce que c'est quelque chose que je connais, c'est la téléphonie mobile, mais je précise effectivement qu'elle est située dans un ensemble scientifique qui s'appelle le bioélectromagnétisme, et qui est l'ensemble des travaux qui, depuis plus de 80 ans, étudie les différents effets de la très grande variété des champs électromagnétiques sur la très grande variété des êtres vivants. Il y a de très nombreuses publications, il y en a plusieurs centaines, et sur la téléphonie mobile elle-même, il y en a plusieurs centaines. La personne qui dispose des références précises est le principal scientifique français indépendant actuel, qui est un spécialiste international du bioélectromagnétisme, s'appelle le professeur Lerusse. Alors, je ne vais pas vous donner une bibliographie.
Le professeur Lerusse.
Lerusse. Le professeur Lerusse, qui est actuellement, d'une part, expert européen dans le sujet, c'est-à-dire qu'il est agréé par le Parlement européen, et qui est, depuis un an, consultant du Conseil de l'Europe. Donc, c'est un spécialiste international, il est compétent et indépendant, et malheureusement, les deux choses ne sont plus très fréquentes. Voilà. Donc, je vais commencer par la téléphonie mobile, et après, je vais dire quelques mots sur le bioélectromagnétisme. Pour la téléphonie mobile, si on commence par le commencement, on répond à la question générale. Est-ce que, dans son état technique actuel, la téléphonie mobile est un danger pour la santé? La réponse est oui.
Là, vous êtes catégorique.
Je suis totalement catégorique.
Bon, alors, je vous...
Dans son état technique actuel, cette technologie est un danger pour la santé.
Je voudrais pas interrompre votre raisonnement, je vais vous le redonner la parole, enfin, je vais vous redemander de le suivre tout de suite, mais est-ce que il vous paraît acceptable intellectuellement? Je vous dis tout de suite que moi, ça me paraît tout à fait certain, mais je vous pose la question à vous qui êtes un technicien. Est-ce qu'il vous paraît acceptable intellectuellement qu'un État, qu'une structure d'État, tolère la mise en place d'un système qui, à l'évidence, présente des dangers graves pour la santé publique?
Alors
c'est ça, à partir du moment où
je vais vous faire un bref rappel. Depuis environ une trentaine d'années, les scandales sanitaires massifs auxquels l'État français a participé sont nombreux, et ils n'apparaissent dans l'information publique, malheureusement, que quand les résultats toxiques sont très largement entamés. Dans certains cas, on arrive un peu avant la fin. Dans certains cas, il est trop tard. Je prendrai un seul exemple, parce qu'il est extrêmement clair. C'est l'exemple de quelque chose qui est extrêmement connu maintenant, puisque maintenant c'est pleinement public, c'est l'exemple de l'amiante. Le fait que l'utilisation de matériaux industriels comportant ces fibres soit cancérigène a été établi d'une façon claire, nette et indiscutable par des travaux scientifiques qui sont antérieurs au XXe siècle. On savait scientifiquement d'une façon parfaitement claire quels étaient les effets de ces fibres par des travaux scientifiques qui sont antérieurs à l'année 1900 pour que l'État soit conduit à reconnaître officiellement, après des décisions de justice, la toxicité du matériau, il a fallu plus de 80 ans. Alors cette distance s'explique comment ? Elle s'explique par la combinaison de deux choses. D'une part, la puissance de ce qu'on appelle les lobbies industriels, et d'autre part, par le très faible niveau de compétence de ce qu'on peut appeler globalement les politiques. Ils n'y connaissent, enfin, ceux qui y connaissent quelque chose sont rares, et ceux qui pourraient dire quelque chose, on leur explique que ce qui est primordial, c'est la santé de l'économie, et que la santé de la population, elle est très largement derrière.
En ce qui concerne la... On va revenir à la téléphonie mobile tout de suite, mais en ce qui concerne l'amiante, c'est quelque chose... Je pense qu'il y a une petite différence, une différence notable, c'est que l'amiante est dangereuse quand elle est en suspension dans l'air. Si les ouvriers qui, si les mineurs qui récoltent l'amiante sont équipés de filtres à air, de combinaisons, etc., ils ne courent pas de risque. Ensuite, l'amiante, elle est en quelque sorte capturée, elle est immobilisée, elle est dangereuse sous la forme de poussière, mais pas sous la forme de, blocs d'amiante. Donc, à ce moment-là, elle n'est plus dangereuse. C'est ce que je vous dis, c'est la version officielle des fabricants d'amiante, bien sûr, j'en sais pas plus que ça. Et disent-ils, et d'ailleurs ça a été dit cet après-midi sur cette même antenne, par les participants d'une émission, qui est une émission des économistes libéraux, donc on sait ce qui les inspire, c'est pas un reproche, ils ont leurs opinions, et on a les nôtres. Enfin moi j'ai les miennes en tout cas. Alors ils disent, le danger, il est... Quand on, si on n'est pas équipé pour récolter l'amiante. Ensuite, quand l'amiante est sous forme de bloc, elle ne présente plus de danger dans la construction. En revanche, quand on utilise le danger, l'argument du danger, pour faire enlever l'amiante, comme on le fait aujourd'hui, à ce moment-là, on remet en suspension dans l'air des particules d'amiante qui, elles, deviennent sont toujours cancérigènes. Donc, c'est pas l'amiante en soi qui est dangereuse. C'est la suspension d'amiante dans l'air, respirée par des poumons humains qui, à ce moment-là, peuvent être atteints de cancer ou de maladies, la maladie du mineur ou des choses comme ça. Donc l'État, lui, a imposé d'abord l'usage de l'amiante dans la construction pour protéger contre les incendies. Et quand, on peut imaginer que les choses se sont passées comme ça, quand... Tout l'équipement en amiante a été fait. On a trouvé des nouveaux produits qui sont des produits protecteurs contre l'incendie qui peuvent disputer à l'amiante son statut unique. Pour des raisons économiques, on a dit il faut remplacer l'amiante par les nouveaux produits qui, eux, ne sont pas dangereux. Moyennant quoi, on fait payer le désamiantage qui coûte une fortune et on fait remplacer l'amiante par de nouveaux produits qui, eux, sont réputés aujourd'hui sans danger et qui coûtent très cher également. Et puis probablement dans 20, 30, 40, 50 ans, on nous dira « Oh là là, mais c'est encore pire que l'amiante, il faut absolument enlever ça pour remplacer par autre chose. » Alors je crois que votre hypothèse des lobbies économiques, elle est tout à fait fondée. Mais c'est plus ce petit jeu d'aller-retour sur un produit qui est dangereux que le produit lui-même.
Alors, ce que je vais vous dire, ça marche là ? Ce que j'entends Ce que je vais vous dire, c'est que on peut dire qu'il y a des formes sous lesquelles l'amiante n'est pas toxique. Mais on savait très bien depuis le début sous quelle forme elle est toxique. Et alors, quelles sont les précautions qui ont été prescrites et soumise au pouvoir public par les industriels de l'amiante? Quelles précautions ont-ils imposées dans les mines?
Ils ont graissé la patte des députés, tout simplement.
Voilà. On pourrait utiliser des moyens pour que ça ne soit pas toxique.
Absolument.
Bon. Alors, quels sont les moyens qui ont été employés par l'industrie?
Aucun, évidemment.
Aucun. Aucun. Parce que, et pourquoi? Parce que si on avait demandé de prendre des protections, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un risque. Et donc, s'il y a un risque, c'est un point de départ de recherche, de questions, éventuellement de panique, et tout ça est très mauvais pour la santé économique.
Ah, on est d'accord.
Donc, le produit doit être innocent, massivement, intégralement, et peu importe ce qui se passe pour les gens, bah, de toute façon, le progrès, ça fait de la casse, tout le monde sait ça.
Alors, pour en revenir donc à la téléphonie mobile.
Alors, revenons à la téléphonie mobile. Il y a un point commun. C'est que précisément, la téléphonie mobile pourrait être compatible avec la santé. Et elle ne l'est pas actuellement dans son état technique actuel. Dans quelles conditions est-ce qu'elle est compatible? Alors, il y a un certain nombre de travaux scientifiques. Je parle bien entendu de travaux de scientifiques indépendants qui concordent sur un résultat évidemment approximatif. Mais ça suffit pour baser une réglementation. Et ce chiffre est que si on prescrit, si on réglemente ce qu'on appelle un seuil d'exposition maximale à 0,6 voltmètre, pour les gens d'une santé normale, la question est réglée. Alors bien entendu, il y a toujours des gens particulièrement fragiles. Mais au lieu de s'attaquer à la population dans son ensemble, il n'y a plus que des gens fragiles, et dans ce cas-là, il y a des précautions spéciales qui peuvent être prises. Donc, le point commun, c'est que la téléphonie mobile pourrait être compatible avec la santé publique, disons, au niveau général. Et pour quelle raison est-ce que les pouvoirs publics ne prennent pas cette réglementation? Pour une raison extrêmement simple, dans laquelle je ne vais pas vous donner les détails, mais je vais vous donner le résultat général, c'est que si on imposait cette réglementation, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs endroits où elle a été appliquée, et où les résultats sanitaires sont là, et il y en a actuellement un en marche qui est un très très gros souci pour les opérateurs. Donc si on appliquait cette réglementation, quel est le résultat? Eh bien, les profits des groupes financiers vont être moins importants et moins rapides. Or, la religion contemporaine, elle s'est, on peut dire, accentuée depuis les 40 dernières années, et maintenant, il y a un seul Dieu, c'est le profit le plus rapide possible.
Ça, c'est certain.
C'est-à-dire alors, le maximum de profit et le plus vite possible.
On pourrait dire à la limite que, bon, quelqu'un qui est conscient de ça, ben, il n'a pas de téléphone mobile, point à la ligne, il est tranquille. Mais ce n'est pas le cas du tout, parce que vous le vouliez ou non, que vous ayez un téléphone mobile dans votre poche ou que vous n'en ayez pas, vous êtes au milieu d'un, enfin, vous baignez dans un bain d'ondes électromagnétiques.
Oui, alors il s'agit d'un électromagnétisme particulier, et je vais vous dire pourquoi. Et pour quelle raison il est celui-là particulièrement toxique. Alors vous me dites, les gens qui ont un portable, ils le choisissent, c'est vrai. Et ils le choisissent sous toutes sortes de pressions psychologiques.
Oui, c'est certain. Bon. Ouais.
Mais une des raisons pour lesquelles ça se vend aussi bien, c'est que l'information réelle est totalement supprimée. On étouffe la quasi-totalité de l'information, et quand on en donne un peu, elle est déformée. Donc,
je suis pas certain que ça soit... Pardon de vous interrompre encore une fois, mais regardez le tabac. Ça fait quand même très longtemps qu'on dit que le tabac est un poison. Tout le monde le sait, tout le monde, tous les jeunes de 17 ans, 16 ans, 15, 18 ans, savent que le tabac va les tuer. Ça n'empêche pas que vous les voyez tous, la cigarette au bec. Donc quand vous devez expliquer 50 000 fois à ces jeunes gens et à ces jeunes filles que de passer la journée avec le téléphone vissé dans l'oreille pour échanger des imbécilités avec leurs petits camarades du genre « j'arrive » alors qu'il va les voir dans deux minutes, c'est pas, peut-être pas la peine de prévenir, eh bien c'est mortel. Ils continueront à le faire.
Vous avez partiellement raison. Mais on a parlé statistique tout à l'heure, on va reparler, je vais faire une évocation de la statistique. Il y a quelque chose qui est quand même très clair, c'est que les industries du tabac qui ont été super florissantes sont en déclin continu et accéléré. Alors, bien entendu, il continue à y avoir des gens qui font ça sous la pression de différentes formes d'inconscience. L'inconscience a de très nombreuses formes. Mais si il y avait une information réelle comme il y en a une maintenant sur le tabac, il est certain qu'il y aurait malgré tout une modification évidente des comportements au niveau général, statistique. Il y aura toujours des inconscients et il y aura toujours des gens qui vont braver l'information parce qu'ils pensent que c'est une forme de liberté. Bon, alors, pour en revenir à la téléphonie mobile, donc, j'ai dit une première chose. Est-ce que, dans son état technique actuel, c'est dangereux pour la santé? Et je dis, la réponse est oui. La deuxième question est-ce que c'est prouvé? Et la réponse est oui. Alors, c'est prouvé de quelle façon? C'est prouvé par deux sources. Il y a les travaux scientifiques et il y a le terrain. Et ce qu'il faut constater, c'est que les résultats sont à la fois convergents et cohérents. C'est-à-dire qu'on trouve les mêmes résultats sur les niveaux de toxicité par rapport à des intensités et sur la nature des pathologies qui résultent. Que ça soit dans les travaux de laboratoire, les très nombreuses recherches qui existent, les travaux publiés et non contestés d'ailleurs, ou que ce soit sur les enquêtes sanitaires, on trouve des résultats convergents. Et avec une constance et une précision statistique qui retire la possibilité d'erreur. Ce qu'on peut dire d'une façon claire et nette, et ce que je dis, c'est que, à de très rares exceptions près, les pathologies ou les maladies qui sont causées par la téléphonie mobile n'ont pas été inventées par la téléphonie mobile, elles existaient avant. Mais elles apparaissent dans des endroits où elles n'auraient pas dû apparaître, et elles apparaissent d'une façon concentrée et significative. Et d'autre part, des maladies qui étaient en cours et qui étaient légères ou qui étaient en régression sont réanimées ou aggravées par la proximité de ce type de source électromagnétique.
Là, vous parlez des réémetteurs, là.
Je parle de l'ensemble de la technologie, parce que quand les opérateurs nous disent, il faut distinguer entre les antennes qui sont où on est sûr qu'il n'y a pratiquement aucun risque et les portables, ils se moquent de la tête des gens, une fois de plus d'ailleurs, parce que c'est une technologie qui fonctionne en boucle. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut qu'il passe des champs ou des émissions entre l'antenne et le portable et entre le portable et l'antenne. Alors il est très difficile de faire croire que voilà des champs électromagnétiques qui vont changer de nature quand ils traversent un appareil. La différence, c'est pas celle de la structure physique de l'émission, et c'est elle qui est toxique. La différence, c'est l'intensité. L'antenne émet avec une intensité moins forte que le portable, ça c'est sûr, mais l'antenne émet tout le temps, alors que le portable n'émet que de temps en temps, sauf pour les grands drogués.
Quand on utilise le portable, c'est assez stupéfiant. Alors, même sur le plan simplement de l'impression qu'on ressent, de se retrouver, je sais pas, au fin fond de l'Espagne, par exemple.
À Venise.
De sortir son téléphone mobile, de composer le numéro à Paris, et pof, dans la seconde qui suit, on a la personne qu'on veut. Donc, sur le plan technologique, sur le plan de la technique, c'est prodigieux, littéralement, ça relève du prodige.
Si on examine la téléphonie mobile exclusivement sous l'angle technique, c'est une technique de très haut niveau. C'est une technique remarquable.
Mais ça se paye.
Pardon ?
Mais ça se paye.
Non, ce qui se paye, c'est son emploi aberrant.
Ouais. Ah, voilà.
C'est ça qui se paye. Vous savez que depuis la plus haute antiquité, c'est un principe extrêmement connu en médecine, que ce sont les mêmes produits qui sont des poisons et qui sont des médicaments, et que tout dépend de la façon de les utiliser.
Un ami médecin, qui est le docteur Plantel, qui dit un médicament qui fait pas de mal, c'est pas un médicament, quoi, tout simplement. c'est de la poudre de perlimpinpin.
C'est Nobel et son invention. C'est Nobel et son invention.
Oui, c'est Nobel et son invention, c'est ça. Mais je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Alors là, je vais vous demander de sortir, non pas de votre domaine de compétences, mais de votre domaine d'activité. Parce que je crois que sur la téléphonie mobile, on a compris le propos général, mais la question qui est celle pour laquelle je vous ai demandé de venir ce soir, c'est aussi de savoir si cet outil qui est dangereux, pas plus dangereux qu'un marteau. Un marteau, si on s'en sert pour enfoncer des clous, c'est pas dangereux. Si on s'en sert pour taper sur la tête de quelqu'un, ça devient une arme par destination. Bon. Alors ma question est la suivante. Est-ce que, selon vous, il est techniquement possible et même déjà réalisé d'utiliser cet outil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné au départ, c'est-à-dire la conversation,
Et est-ce qu'on peut imaginer que des gens utilisent les ondes électromagnétiques ou les appareils émetteurs à des fins criminelles?
Parfaitement, monsieur, c'est possible. C'est possible. Alors, il est un peu délicat de faire des rapprochements entre ce qu'on va appeler les activités militaires et le crime, parce que déjà, il y a un certain nombre de différences. Enfin, le fait qu'il y a un point commun, c'est que ça peut aboutir à des morts de personnes. Les armées, à peu près partout, surtout celles qui avaient un peu d'argent, c'est-à-dire surtout aux États-Unis, mais aussi pas mal en France, les armées ont fait de très grandes études, et très longues, sur les utilisations militaires des champs électromagnétiques.
Et l'armée... technique, ça a à voir avec les micro-ondes?
Pardon?
Les micro-ondes. On appelle les
Alors, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle micro-ondes, c'est l'appellation, on peut dire surtout commerciale, d'une bande de fréquences. C'est-à-dire ce qu'on appelle les hyperfréquences, mais je pense qu'on va pas faire un cours de physique ici.
Les hyperfréquences, c'est du même ordre que
les hyperfréquences, c'est une bande de fréquences. Et effectivement, les longueurs d'onde sont très courtes, et c'est pour ça que ça s'appelle des micro-ondes. Et le mot micro-ondes est beaucoup plus vendeur sur le plan commercial que le mot hyperfréquence. Voilà. Donc, la différence. Je vais vous donner un exemple très précis. Pour l'instant, la téléphonie mobile de base, c'est-à-dire celle des sons, qui a été rejointe récemment par celle qui comporte quelques images et un peu d'Internet, fonctionne sur trois bandes. C'est-à-dire des groupes de fréquences autour d'une fréquence nominale. Il y a la bande des 900 MHz, la bande des 1800 MHz et la bande des 2100 MHz. Les fours à micro-ondes domestiques fonctionnent sur une hyperfréquence légèrement supérieure, c'est-à-dire autour de 2300-2400 MHz. Mais ce qu'utilisent les fours à micro-ondes, c'est très exactement les mêmes fréquences que la téléphonie mobile. La seule différence est dans la structure physique, parce qu'il n'y a pas que la fréquence de référence. Donc ça, c'est une chose que je peux vous, si vous pensez que c'est utile, ce que je peux, c'est parler de deux choses. D'une part, situer la téléphonie mobile dans l'ensemble du bioélectromagnétisme pour expliquer pourquoi c'est toxique, et de faire un bref aperçu sur les causes physiques précises de la toxicité dans le cas de la téléphonie mobile.
Il nous reste une douzaine de minutes, donc je voudrais quand même qu'on
aborde
un sujet sur lequel on reviendra, qui est celui de la criminalité.
Oui.
Mais on y reviendra avec des témoins.
Je vous ai dit qu'il y a eu des études sur les usages militaires. Alors, les usages militaires se répartissent en deux catégories. Les armes dites létales, c'est-à-dire celles qui sont prévues pour tuer, et celles qui sont non létales, c'est-à-dire toutes les formes d'incapacité. Mais...
Et d'après vous, c'est utilisé aujourd'hui en France, par exemple, et il y a des gens qui en sont victimes.
Alors, les activités militaires comportent des gens qui peuvent sortir de l'armée, qui peuvent avoir des activités personnelles, et qui peuvent entrer au service, par exemple, de ces services un peu particuliers qu'on appelle des services spéciaux, qui sont dans les grandes lignes des services chargés des basses œuvres, que ce soit du pouvoir ou que ce soit des grands groupes, sans entrer dans les détails. Donc il y a des grands groupes qui ont des services spéciaux comme un État. Et parmi les gens qui travaillent là-dedans, eh ben il y en a qui ont des compétences et qui ont des matériels, et quelquefois ces matériels ont été adroitement détournés de leur localisation militaire, et qui s'en servent à des fins personnelles, je pense plus souvent de groupes qu'individuels, mais ce que je peux vous dire, parce que comme nous sommes en contact avec des victimes, je peux vous dire que j'en connais plusieurs, et les troubles, les dommages, et même dans certains cas les tortures qui leur sont infligées sont extrêmement claires, elles sont reconnaissables, et dans certains cas on fait des mesures et on repère très bien quelle est la nature générale des appareils qui sont utilisés.
Mais d'après vous, est-ce que, je sais bien que c'est une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre vraiment, mais votre impression, est-ce que les victimes sont des victimes désignées ou est-ce que ce sont des victimes de dégâts collatéraux en quelque sorte?
Ah non, je peux vous dire que, bien entendu, il y a beaucoup de victimes qui se trouvent à proximité de dégâts, mais il y a des gens qui sont poursuivis personnellement pour une raison ou pour une autre. Mmh. Alors, j'en connais plus. Excusez-moi, j'en connais plusieurs.
Vous, personnellement,
ce que je peux vous dire, c'est que les perturbations de santé, qui sont quelquefois grandes, et je dis qu'il y en a dans certains cas qu'on peut appeler des tortures, plus ou moins permanentes, mais quelquefois presque permanentes, sont très claires et elles ne peuvent pas être produites autrement. Et elles sont produites à distance.
La tragédie, c'est que comme ça n'apparaît pas, c'est pas un furoncle, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de choses comme ça. Pour dire les choses clairement, quand les gens vous expliquent ça, moi au début, quand on est venu me parler ça, j'ai dit c'est des dingos, quoi, voilà. C'est des gens qui sont fous, ils ont des troubles mentaux. Et ils attribuent ça. Quand j'étais jeune journaliste à Minute, il y avait une dame qui était venue me voir pour m'expliquer qu'on envoyait des gaz sous sa porte.
Bon, ça peut se faire, ça peut se faire.
En l'occurrence, cette dame, elle était réellement toquée. Quoi. Bon, et donc j'en ai conclu que au début, que les gens qui racontaient qu'ils étaient victimes de menées criminelles. Liés à l'électromagnétisme, c'était des gens tout simplement qui avaient des troubles mentaux, pas forcément.
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans le cas de certaines personnes, les mesures ont été faites. Et elles sont très claires. Et elles sont totalement anormales. C'est-à-dire, les gens qui utilisent ça, savent ce qu'ils font. Et le fait que ça puisse être très localisé et que ça puisse suivre des personnes à distance est parfaitement scientifique.
Alors, ça va nous ramener à ce que vous vouliez évoquer à l'instant. Est-ce qu'il y a un moyen de se prémunir contre ça? Est-ce qu'il faut porter un petit chapeau en papier crépon ou en,
alors comme
en papier alu?
Je vais vous répondre sur les protections en général. Comme l'inquiétude par rapport à cet ensemble électromagnétique et en particulier à la téléphonie mobile est croissante, ça a développé un marché de la protection. Et malheureusement, l'efficacité réelle est en général très très inférieure à ce que disent les vendeurs. Donc il y a des protections, il y a des gens sérieux, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'il faut dire d'une façon très précise et très claire, c'est que la protection qu'on peut obtenir est toujours partielle. Il n'y a pas de protection, il n'y a pas de façon de se protéger intégralement.
La cage de Faraday, par exemple, ou la transformer sa chambre en cage de Faraday, ou...
Il n'y a pas, alors, je vais vous dire, je ne peux pas vous faire non plus ici un cours de physique tout de suite, mais je peux vous dire, il est impossible qu'existe une protection totale. On peut se protéger partiellement, c'est-à-dire on peut, quand, dans le cas où on en souffre, on peut diminuer les perturbations sanitaires, et dans le cas des gens qui sont victimes de l'état général, s'ils déménagent et qu'ils vont dans un endroit qui est moins arrosé, en général, ils récupèrent assez rapidement leur santé normale. S'il y a des gens qui sont spécialement poursuivis, on peut les poursuivre d'une façon très précise et presque partout.
Oui, mais ça paraît évident. Quand on voit fonctionner un téléphone mobile, on voit bien que quel que soit l'endroit de la planète où on se trouve, en gros...
Alors voilà, je vous donnerai un exemple très précis, c'est que les téléphones mobiles, qui sont très intéressants pour les pouvoirs publics, et qui sont utilisés, qui sont prévus d'être utilisés pour une espèce de repérage permanent de la population, les téléphones mobiles fonctionnent avec un signal émetteur qui permet de les reconnaître, et c'est ce qui permet de leur envoyer des émissions qu'ils captent. Donc il y a, quand le portable est en veille, il y a un signal qui s'appelle, c'est un des canaux du portable qui s'appelle le signal balise, qui est repéré par des réseaux de récupération, ce sont ceux qui transmettent les différentes conversations, et donc ils sont repérés partout, et c'est de cette façon que procède la police pour localiser des gens qui sont poursuivis et qui ont l'inconscience d'utiliser leur téléphone portable dont les références sont connues.
Il y a même eu un chef terroriste qui a été zigouillé par un missile israélien qu'il avait attiré sur lui-même avec son propre téléphone portable.
Oui, alors ça.
Récemment, il y a deux ans, ça s'est produit.
Oui, un an ou deux. Je vais vous dire, c'est pas tellement ça qui est le centre des événements dont je m'occupe. Donc là, mes informations sont approximatives. Mmh. Mais sur le principe, je peux vous le confirmer. Il y a des gens qui disposent de moyens parfaitement illégaux, d'ailleurs, parce que bien entendu, ça ne devrait pas être en possession de personnes privées, et qui les utilisent pour des persécutions, en général, localisées, ciblées.
Je vous propose une chose, c'est de, si vous êtes d'accord, de refaire une autre émission sur le sujet, mais là je ferai venir des victimes.
Oui.
Et on les interrogera sur la façon dont ça se manifeste.
Oui.
Et sur les raisons qu'elles ont de penser qu'elles sont victimes de ce genre de manipulation. Est-ce que ça vous acceptez de
alors, faire partir de l'émission? On va préciser une chose, c'est que les victimes dont vous parlez sont des victimes où, chez qui la pathologie est repérée et grave.
Oui.
Mais moi je vous dis, dans l'état actuel, dans tous les pays dits industrialisés, la population dans sa totalité est victime. Mmh. C'est-à-dire que les personnes sont d'une extrême variété de constitution physiologique et donc les gens sont extrêmement variés dans les fragilités. Physiologique.
Est-ce que vous voulez nous donner les coordonnées de votre association pour les auditeurs qui voudraient entrer en contact avec les Robins du Toit?
Alors, je dis tout de suite qu'il y a un site, donc les gens qui ont Internet peuvent le trouver, et là-dessus, ils auront les informations, et ceux qui n'ont pas Internet, ils ont des copains qui l'ont, mais ce que je peux vous donner tout de suite, c'est l'adresse et le téléphone principal mobile, de l'association.
Pardon. Le téléphone mobile ou le téléphone...
Alors, je vais vous dire une chose, c'est que les personnes qui sont du membre central actif n'ont aucun téléphone portable.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Marquis, avec votre appareil magnifique. Il nous reste une minute donc, pour donner l'adresse.
Alors, l'adresse de Robin des Toits. Donc, c'est Association Nationale Robin des Toits, 55.
N'allez pas trop vite, s'il vous plaît.
Excusez-moi.
Robin des Toits, oui.
Robin des Toits, au pluriel. Oui. 55.
Oui.
Rue Popincourt.
Oui.
Popincourt. 75011 Paris.
Oui.
Ça va? C'est pas trop vite.
Téléphone?
Téléphone. 01 43 55 96 08.
Merci Marc Sandrier. Je vous dis à très bientôt. On refait une émission très vite sur ce sujet avec des personnes qui nous raconteront comment elles ont...
Oui, et je pense qu'il y a un certain nombre d'informations d'ordre général, même survolées, qu'il est utile de donner en plus de ce dont on a parlé aujourd'hui.
Merci beaucoup. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. À Paris, sur 95 MHz 6. À Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Dubéquetch avec l'assistance de Victoria. Diffusé en direct mercredi 4 juillet de 18 à 21h, en différé jeudi 5 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, faciliterait la tâche de notre secrétariat bénévole par avance merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, Paris. Et
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit sur Radio Courtoisie. Tout à l'heure, à 21h30, en direct, le Libre Journal de la Nuit de Paul-Marie Couteau. À minuit, nous rediffuserons le Libre Journal des Économistes, dirigé par Jacques Garello et présenté aujourd'hui par Georges Lannes. Invité Fred Aftalion, industriel, économiste, écrivain. Axel Arnoux, chef d'entreprise. Bertrand Leménissier, professeur à l'Université de Paris 2, économiste, écrivain. Commentaire de l'actualité économique. À 2h, l'émission que vous venez d'entendre, le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria. Invité Patrick Goffman, journaliste, écrivain. Jean-Pierre Rondeau, financier, écrivain. François Robot, journaliste gastronomique. Jean-Pierre Chériguez de Olmeta, journaliste, écrivain. Président d'honneur du syndicat hippique national. Nicolas Bonal, journaliste, écrivain. Marie-Claire Osterweck, professeur des universités. Marc Sandrier, chargé de l'information scientifique de l'association nationale Robin des Toits. Guylaine Grignard, assistante pédagogique. Libre propos sur l'actualité politique, des travaux sur le carbone 14, les effets de l'électromagnétisme sur le vivant. À 6h, les livres du jour, l'art littéraire de Pierre de Bréritzen du 3 janvier 1990. Invité François Broche, journaliste, écrivain. Une biographie d'Annette de Noailles. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous dans une minute avec Benoît pour une page de musique. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 21h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.